Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Hip Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hip Hop, breaker, DJ, danseur. Hip Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question. Bienvenue à tous, auditeurs, auditrices, b-boy, b-girls. Fly Girls, trop content de faire cette première émission dont l'objectif est de balayer la culture hip-hop sous tous ses aspects, de mettre en valeur toutes les disciplines de cette culture qui en a bercé, j'espère, tant et tant parmi nous qui nous écoutaient et aussi de l'autre côté dans cette pièce. Je ne suis pas seule pour présenter cette émission. Au micro, Sophia, pour vous accueillir, j'ai avec moi une équipe de choc. Je vais commencer par Maristane. Bonsoir Maristane.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ça va. Pressée de commencer.
Super. On a également Fiona qui est là.
Bonsoir.
Comment vas-tu Fiona ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien, je te remercie. Et on a également Huguette qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Huguette qui est parmi nous, mais... On va vous expliquer ça plus tard. Donc voilà l'équipe qui va se joindre à moi, qui va participer à l'émission tout au long de la saison. Et je suis très heureuse de les avoir avec moi. Et ce soir, pour cette première émission que nous avons intitulée « La rentrée des clashs », nous allons justement avoir deux invités de marque avec nous qui vont justement nous aider à mieux comprendre la culture du battle dans le mouvement hip-hop. Bon, après, il y avait un jeu de mots, la rentrée des classes, la rentrée des clashs. Donc voilà, ça donnait un peu cette impression trompeuse qu'on allait parler de clash uniquement. Mais moi, j'ai plutôt envie de parler de battle finalement. Parce que voilà, battle de danse, battle de rap, battle de DJ, etc. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux qu'à la fin de cette émission, même ma maman, elle sache ce que c'est un battle. En vrai, elle sait, je faisais de la danse. Bon, en tout cas, l'idée, c'est que tout le monde comprenne bien ce que c'est qu'un battle, à quel point ça peut être riche de comprendre ce qu'il y a derrière, les règles, l'état d'esprit, puis la portée culturelle que ça peut avoir aussi. Et donc, pour traiter de ces deux sujets-là, je vous disais qu'on avait des invités de marque. Le premier, c'est Bruce Ikanji. Bonsoir, Bruce.
Hello, hello, l'équipe.
Comment vas-tu, Bruce ?
Ça va bien, hein. Je suis intimidé.
Intimidé ?
Wow. Ouais, c'est la première, rentrée des clashs, il faut y aller.
C'est vrai. Bon, donc je te présenterai juste après, mais on va déjà dire bonjour, bonsoir à Bad Sam, notre deuxième invité.
Merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir.
Je suis intimidé aussi pour cette rentrée des clashs.
Non mais attendez, vous imaginez, j'intimide Bruce et Bad Sam. Ça y est, c'est bon, je peux rentrer tranquille à la maison.
C'est un jour de rentrée, c'est normal.
C'est ça, exactement. Alors bon, donc voilà, vous avez entendu nos deux invités. Je présente rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Bruce Ikanji ? Bon, déjà Ikanji, la compagnie un peu mythique de danse qui a révélé tellement de talents. Donc danseur, mais aussi organisateur de battles de danse et un des battles les plus connus en France, si ce n'est dans le monde même, qui va fêter ses 20 ans. Donc une renommée incroyable, mais aussi une longévité assez impressionnante. Fondateur de la Juste Debout School également, organisateur de croisières.
Voilà, depuis peu.
Depuis peu. Il nous en parlera peut-être après, on ne sait pas. Il nous invitera peut-être.
Oui.
Fondateur aussi d'une agence,
ouais.
Il me semble.
De Dividends Agency, agence de placement d'artistes. Ouais.
Voilà, donc homme aux multiples facettes, mais tout étant relié au mouvement hip-hop. Donc,
au mouvement hip-hop et à la danse surtout.
À la danse, ouais. Essentiellement.
Enfin, je ne suis pas contre le reste. Pour moi, ma mission, c'est la danse.
Voilà, il est parti en mission il y a un certain temps par rapport à la danse. Mm. Très bien. Et donc, merci encore une fois d'être avec nous, Bruce.
Merci, tu pourras.
Je pense que tu es une des personnes qui peut bien nous aider à comprendre ce qu'est un battle de danse.
Cool.
Et Batsam, qui est fondateur et organisateur des Rap Contenders, qui ont eux aussi une longévité assez impressionnante.
15e année. Ouais.
15e année, bravo. Ils vont fêter leurs 15 ans. Donc, c'est pas rien. Battle de MC qui se sont fait connaître petit à petit et qui sont maintenant même plus à présenter tellement ils occupent le paysage du hip-hop et des battles en France. Donc voilà, bienvenue à toi, Batsam.
Merci encore pour l'invitation.
Super, merci à vous deux.
Merci.
On va tout de suite plonger dans le cœur du sujet, si vous voulez bien. L'idée, c'est dans un premier temps de comprendre un peu les origines, d'où viennent ces battles. Mmh. Bon, si tu veux commencer.
Ouais, moi, je te suis. Hein. Donc, écoute... Déjà, moi, je suis très content de voir que tu appelles pas ça la battle. Ça, c'est très important.
Merci. Merci,
ouais,
à toi.
Ouais, merci à toi. Parce que
ça fait tellement de bien.
Ah, là, moi, j'appréhendais. Je me dis, non, elle va appeler ça la battle et je vais devoir lui dire en direct. Non, mais en tout cas, je suis content que ce soit des gens de la culture qui nous accueillent aussi. Donc, merci encore pour l'invitation. Et la battle n'existe pas. C'est que sur TF1. Nous, on n'a jamais appelé ça la battle, même si littéralement, la battle en anglais, c'est la bataille. Bon, voilà. Bref.
Alors, je vais préciser ma question, comme voilà, on sait qu'on est entre initiés, il n'y a pas de souci, mais on va essayer d'être un peu pédagogue avec ceux qui ne connaissent pas, en leur donnant effectivement les bonnes informations et les bonnes terminologies, et en n'expliquant pas à ma maman, pour revenir à elle, que ce qu'est la battle,
ouais, c'est
effectivement.
Ça.
Mais donc, soyons plus précis, est-ce qu'il y a toujours eu des battles de danse ?
Alors, de danse, depuis que le hip-hop est né, et même avant ça, parce qu'avant c'était le funk style, dans les années 60-70, il y a toujours eu cet esprit de confrontation. Mais les battles organisés sont venus bien plus tard. Ce qu'on appelait, nous, les battles à l'époque, c'était les défis, en fait. Et les défis, c'était c'est la rentrée des clashs. Donc, les défis étaient liés aux clashs. C'était, en fait, tu ne faisais pas de défis si tu n'étais pas en confrontation avec quelqu'un en général, à part pour s'amuser, mais voilà. Et du coup, les battles sont venus... bien plus tard, dans les années 90, avec des événements qui sont nés comme le Battle of the Year, qui est un battle allemand et un battle de break, et qui ont commencé à nommer un peu les battles. Mais à la base, nous, on appelait ça les défis, et c'était quand tu avais un contentieux avec quelqu'un ou que tu voulais kiffer, que tu rencontrais quelqu'un. Par exemple, que tu rencontrais quelqu'un de New York ou d'un quartier d'à côté, bah, tu voulais le défier pour tester ton appétence et ta force et ta puissance en danse. Donc, ça existe depuis que le monde est monde. Parce que même avant le hip-hop, il y avait déjà des défis, et ça, c'est un peu plus dramatique, dans les mines en Afrique du Sud. Le Gumboots, le Pensula, enfin, surtout le Gumboots, c'était des mineurs qui étaient dans des mines différentes et qui se confrontaient. Il y avait les colons, hein, qui appelaient les mineurs de la mine A contre les mineurs de la mine B, et ils se rencontraient et voilà, ils faisaient déjà des défis. Donc le défi existe depuis très longtemps, le hip-hop n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'on l'a popularisé.
D'accord, voilà. Donc finalement, il a toujours existé, c'est-à-dire que dès que les b-boys ont commencé à utiliser leur carton à New York pour tourner sur la tête, et ben, il y a quand même eu cette volonté-là, mais c'était moins organisé, et puis il y a eu ce moment où effectivement, il y a eu c'est ce qu'on appelait battle, où là, ça c'est un peu plus, on viendra dans une deuxième partie sur les règles, sur comment s'organiser les battles, effectivement, mais donc effectivement, il y a eu un peu ce passage-là.
Ouais, si je peux me permettre, c'est devenu un petit peu plus commercial après, dans le sens commercial, tu payes l'entrée, voilà. Même si c'est toujours underground et organisé par des gens de l'underground, mais il y a une notion un peu plus, on va dire, business. Mais
après, dans mon souvenir, les premiers Juste Debout, vous ne faisiez pas payer l'entrée.
Si, mais 3 euros, ouais, 3
voilà,
euros,
c'est
tout ça.
Il ouais,
y avait
hein.
des frais de fonctionnement. Ah ouais, à Champs-sur-Marne.
Champs-sur-Marne, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant aussi dans le battle, c'est que, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de genre. C'est-à-dire qu'une femme peut défier un homme, un petit peut défier un grand, etc. etc. Et c'est ce qui est super intéressant aussi, parce que c'est pas... Enfin, il y a des règles sans en avoir, on va en parler plus tard.
Ouais, on en parlera plus tard, parce que j'apporterai peut-être des petits bémols à ce que tu es en train
de
dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais bon, on verra. Ouais. Mais alors, dans les clashs que vous organisez dans le rap contender. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place qui ne se faisait pas vraiment avant, ou est-ce que un peu comme Bruce et Candy, tu diras que vous n'avez rien inventé en fait?
On n'a rien inventé. La particularité, nous, en plus, c'est que c'est a cappella. C'est ça la différence par rapport au battle classique qu'il y a eu dans leur rap. Parce que ça a toujours existé, en fait. Hein. Comme dit Bruce, ça soit dans la danse ou chez les DJ, chez les MC, il y a toujours eu cette histoire de compétition, d'ego, de se surpasser, d'être le meilleur de sa rue, le meilleur de sa ville, le meilleur enfin, de la région, du pays, etc. etc. Mais nous, la particularité, exactement, c'est que c'est arrivé à cappella. Et ce qui a fait la différence par rapport, on va dire, aux battles classiques dans le rap, puisqu'il y a toujours eu des battles de rap sur instru. Dans la rue, vous pouvez avoir des freestyles de Biggie, par exemple, qui prend le mic dans la rue.
Ouais.
Une vidéo légendaire, je pense, que beaucoup connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, allez checker ça.
Ouais, on leur mettra
Biggie, un des plus grands rappeurs de l'histoire. Donc voilà. Mais sinon, nous, la seule particularité, c'est que c'était a cappella. Et qu'en France, on est les premiers du coup, à ramener ce style-là. Sinon, il y a toujours eu des exercices comme Dégaine ton style ou d'autres... D'autres entités. Ouais, pardon, merci.
Ouais, donc en fait, vous, quelque part, ce que vous avez amené de différent, c'était le fait que ce soit a cappella. Mais après,
c'est ça.
Si on revient plus sur l'histoire pour se mettre d'où ça vient, des battles entre MC, il y en a toujours
ça
eu, même
toujours
dans les tout débuts.
Toujours, je pense, depuis que le hip-hop existe,
ouais.
Il y a toujours eu ce côté qui est le meilleur MC. Quoi.
Ouais,
ce qui est intéressant, c'est que tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une culture jeune à la base.
C'est ça.
Maintenant, elle a 40-50 ans, et nous, on est restés ados. Tu vois, moi, j'ai un Pédi
15 ans dans la
Vador,
tête.
Voilà. On a toujours 15 ans dans la tête, et c'est super intéressant parce que c'est une culture un peu puérile, dans le sens vraiment du terme. Et que voilà quoi, le mec il saute à 1 mètre, toi tu veux sauter à 1 mètre 10, et c'est le surpassement de soi en fait.
Ouais.
Et ça, je trouve ça super intéressant dans une époque où il n'y a pas plus beaucoup de dynamisme chez les jeunes souvent, ça ramène une dynamique qui est intéressante.
Ouais, le fait de se dire bah lui il a réussi à faire ça, moi aussi je suis capable.
Et puis même pour soi, c'est-à-dire se surpasser soi.
Ouais, c'est ça en fait, ouais, côté je vais montrer que je suis le meilleur. On a tous cette envie là. Je pense que celui qui passe son bac, il a envie d'être le meilleur. Celui qui fait du vélo, il a envie d'être le meilleur. Et c'est la même chose dans notre discipline. Quoi.
Ouais.
Celui qui est au platine, il a envie d'être le meilleur DJ. Il y a eu des compétitions de DJ qui sont incroyables parce que les mecs, à chaque fois, qui ont toujours envie de se surpasser. Et c'est l'essence même de notre culture, en fait. Je pense que c'est toujours se surpasser. Il y a aussi de l'amusement. Faut pas oui, oublier ça, oui. Le respect, mais il y a aussi beaucoup de l'envie de se surpasser, de donner le meilleur de soi-même. Quoi.
Alors, avec presque 15 ans maintenant d'expérience, on en a un petit peu parlé, tu avais du mal à faire sortir des moments plus que d'autres, mais est-ce que tu aurais en tête un battle en particulier qui t'a vraiment marqué?
Moi,
que tu voudrais un peu nous décrire et
moi,
qui serait révélateur.
Moi, je dis toujours, il y a mon gars, la Stoller, qui est là, qui vient d'arriver, le légendeur Stoller. Moi, je parle toujours du premier battle, parce que c'est comme tout, en fait. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que ça va donner. Et comme on dit toujours, si on nous avait dit que comment c'était organisé et l'événement, comment il était, et ce que ça avait donné après... Jamais j'aurais cru, je pense que même Stoner n'aurait pas cru. Enfin,
alors est-ce que tu peux nous
battle,
décrire un petit peu?
Le premier
c'était
battle,
comment,
c'est
Dilber
Bigot contre Black Apart. On est dans une arrière-salle de chicha. voilà, arrière-salle, vraiment, quand je vous invite à regarder les premiers battles, vous voyez que la salle, voilà quoi, c'est un garage quoi, ouais. Et on arrive dedans et je me rappelle, je dis à un de mes potes, parce qu'en fait la particularité, c'est qu'encore une fois comme le hip-hop, c'est que c'était que du bouche à oreille avant qu'on passe à les histoires de billetterie comme disait Bruce tout à l'heure. On rentre un peu plus on va dire côté business et tout. C'était vraiment un truc basique, que des MC d'open mic, donc du bouche à oreille. Il y a un événement à tel endroit, il y a des battles, moi j'affronte un tel, vas-y viens, on y va. Le fait de le surnombre et tout ça, histoire d'eux. Et quand on rentre dans la pièce, je me rappelle, je dis à un de mes gars, je lui dis,
ce soir, si ça part en vrille, on est tous morts. Et pourtant, ça s'est bien passé. Et la magie, en fait, du truc, personne, franchement, celui qui dit qu'on savait où on allait, franchement, c'est un menteur, parce que c'est l'effet de surprise. Et la magie, en fait, du truc, la caméra s'est allumée, les deux MC étaient hésitants, mais avaient envie, comme je disais tout à l'heure, l'ego de se surpasser, même si ça tâtonnait un peu. Et à partir du moment où la caméra est partie, on leur a dit « let's go », bah c'était « let's go ». Et je voulais dire un truc aussi, la particularité de notre événement, de notre exercice, c'est que c'est du one shot. C'est filmé, à partir du moment où c'est parti, c'est parti.
C'est comme Hip Hop 360, c'est voilà, enregistré dans les conditions du direct.
Et ce que je disais, je crois, au téléphone, c'est que c'est un peu comme la boxe. Quand tu fais un film, tu peux faire plusieurs prises. Quand tu fais un concert, tu peux à un moment dire « bon, Didier, vas-y, remets-la et tout ». Là, quand Stunner, moi, ou Deniès, ou Yo, ou Driver, les présentateurs disent « premier round, c'est parti ».
Il n'y a plus de choix.
Il n'y a plus de choix. Ouais. Là, c'est le travail que tu as fait, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais tout le travail que tu as fait en amont, là, c'est le moment, mais c'est toi, ton adversaire, le public, et voilà.
Ok. Je pense que c'est peut-être le moment d'écouter un petit extrait, justement, de Rap Contender pour se mettre un peu dans cette ambiance particulière.
C'est Hermano qui commence, mais avant, Paris, ça fait du genre
historique.
Genre
historique.
Genre
historique.
Hermano, premier rang, quand tu veux, let's go.
Yeah. Yeah. Si ce soir c'est mon grand retour, je me dois d'être énervé. Mais croyez pas que je viens d'émerger, je me suis pas mal exercé. Il y a toujours une partie de moi qui est là pour le sport, comme RMC. On m'a dit, t'es le Marseillais, que le R, c'est M. MRC. Ouais. Lionel, mon petit Lionel, t'es pas un produit noble, un produit phare, un produit cher pour la France. Ton talent, c'est du réchauffé, mais malgré tout, avance. Je vais pas en faire tout un plat, mais ici, il n'y a plus le même goût qu'avant. Puis pour mettre reste en haut de la carte, c'est vraiment que le RC a rien à se mettre sous la dent. Eh, dès que je vois ta tête, ça m'agace. Toi qui crois que dans tes textes, ça tabasse. Puis au RC, reste, t'as ta place, mais en bas de carte, loin de moi, donc reste à ta place.
Reste à ta place.
Fort.
Bon, alors c'est un extrait du Rap Contenders 18. Alors tu vas m'aider pour le nom des.
Hermano Salvatore, qui a été champion du Rap Contenders, qui vient de Marseille.
Merci.
Et RES, qui est multiple champion d'une autre entité que j'ai dit tout à l'heure, donc sur Instru de End of the Week.
Ouais.
Et qui est aussi un membre du Rap Contenders depuis plusieurs éditions.
Yes, bon, donc toutes mes excuses, effectivement, j'en ai regardé pas mal avant l'émission, donc je commençais un peu à avoir double, mais ils sont éminemment connus dans le circuit. Donc voilà, j'ai choisi cet extrait parce que je trouvais qu'il était assez révélateur de l'ambiance qu'il y a dans les rap contenders. Et puis en même temps, on voit que tout le monde en prend un peu pour son grade, y compris les organisateurs.
C'est le jeu. c'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, c'est... Je ne veux pas dire, c'est, on va dire, comme une colonie de vacances, c'est deux événements par an. Donc, quand on se retrouve, c'est un peu voilà, une petite fête, une célébration de notre discipline qui n'est pas assez, je trouve, aussi reconnue en France par rapport à d'autres pays. Et du coup, même si il y a des choses des fois qui ne sont pas cool, où ils se prennent des lines, des phases voilà, un peu piquantes et tout, ça reste quand même une fête et... On prend tous pour notre grade, c'est comme ça. Et c'est le jeu, tant que ça reste, on va dire, bon enfant, c'est comme ça.
Ouais, c'est un peu comme disait Bruce tout à l'heure, on a 15 ans en vrai, quand on est là-dedans, dans sa tête. Est-ce que toi, Bruce, t'as des... peut-être que tu voulais réagir.
Ouais, je voulais réagir parce que c'est génial. Moi, Stunner, il m'avait invité il y a 6 mois. Et franchement, bah, je ne fais pas de promo pour la promo, je dis toujours ce que je pense. C'est incroyable, j'ai kiffé. J'avais déjà vu sur Internet. Donc c'est cool, mais quand tu le vis,
t'as vu, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Il faut y aller pour comprendre. Souvent, ouais. Et il y a un autre truc, j'ai dit à tous mes élèves. Je suis rentré le lendemain, parce que c'était un dimanche ou un samedi.
Samedi.
Et voilà. Et le lundi, je suis arrivé à l'école de danse et j'ai dit, tous mes élèves doivent aller au Rap Contenders pour comprendre ce qu'est le hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est ça. T'es en bas du quartier, t'es en train de te vanner la poire avec des potes et ça m'a fait penser à ça. Et je dis, là, le mec, il s'est pris une rafale. Et à la fin, il se check. Tu vois, c'est super bon enfant. Ouais. Et c'est génial. Et j'ai dit à tous mes élèves, il faut aller là-bas pour comprendre ce qu'est, en fait, que vous compreniez même à travers Rap Contenders, ce qu'est que la danse. Parce que dans la danse aussi, il y a ça. Tu vois, il y a le charriage. Ça fait partie de notre culture.
Ouais.
Et ça, il ne faut pas le perdre, je pense.
Je dirais presque qu'il y a une grammaire qui est commune, en fait. Oui, il y a des règles du jeu qui font que on joue à être très, très énervé l'un contre l'autre. Mmh. Et ça se voit, en fait, quand on regarde les vidéos où on voit que les mecs, ils sont énervés. Tu te dis, mais il va le taper.
Ouais, voilà.
Attention. Sauf que la seconde d'après, en fait, ils sont en train de se checker. Et puis même, des fois, t'en as certains, ils se prennent des rafales. Et quand même, ils sont là et tu te dis, ah ouais, non. Ouais.
Franchement, elle est forte.
Des fois, c'est des techniques. Oui. Parce que t'es obligé de... Tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est comme à la cour d'école. Si au foot, tu te prends un petit pont, tout le monde est là-haut. Ouais. Tu vas forcément dire, ouais, bien joué. T'as un peu le seum, mais c'est comme ça, c'est le jeu.
Mais il y a des vrais bifs.
Ouais, bien sûr. Après, comme on disait tout à l'heure, ça reste dans le cadre du battle. Après, voilà. À la fin, ils vont pas sûrement manger ensemble, mais... du monde qui se respecte, voilà, non, mais c'est important à dire aussi.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y en a, ils se renvoient vraiment des saletés.
Ouais, ouais.
C'est dur.
Et... On n'a pas mis les pires. On a été gentils dans l'extrait. Donc voilà, j'avais un peu la même question pour toi, Bruce. Est-ce que tu as comme ça des événements du Juste Debout qui t'ont tellement marqué que ça reste quand même des.
Alors, moi, par rapport au Juste Debout, bon, déjà, j'ai jamais appelé ça battle, moi, au Juste Debout. Mm. Parce que justement, je fais partie de la culture hip-hop depuis pas mal de temps, et que pour moi, un battle, c'est un beef. Tu vois, c'est... Donc, j'ai toujours appelé ça rencontre internationale de danse hip-hop. Parce que je trouve que la rencontre est intéressante, le mot est intéressant, et je voulais faire une jam au début. Une jam, c'est plus en jazz, où les gens se rencontrent et on fait des on échange ensemble. Bon, après, ça m'a dépassé, bien sûr.
c'est comme ça.
Voilà, tu veux réinventer
la chose. Faire ce que tu veux.
Voilà, t'as beau faire ce que tu veux, mais les gens, ils s'approprient
ça
le truc.
Ça t'appartient plus.
Exactement. Et c'est
pas
plus mal.
Il y avait un plan A.
Voilà, c'est ça. Voilà. Le plan A, c'était à Champs-sur-Marne, 400 personnes. Le plan que les gens ont fait, c'est Accor Arena, on en a 11. Donc,
c'est beau aussi.
Non, c'est beau.
C'est autre chose.
Mais c'est un monstre qui te dévore, en fait. Okay. Donc, juste pour dire que, tu vois, même si t'as un plan, les gens s'accaparent et ils font ce qu'ils veulent. Ils appellent ça battle après.
D'accord. Bon, voilà. Mais dans le parcours, dans tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment t'as eu l'impression de vivre un truc qui
unique,
était unique?
Alors, je vais peut-être pas être un bon client pour toi, mais j'ai toujours détesté mes Juste Debout. Sur le moment, je suis tellement nerveux.
Oui.
J'ai même des crises.
Tout
physiques.
Va bien alors.
Non, mais tu vois.
Vous avez un point commun, ils sont
On dirait bien que.
J'ai toujours détesté parce que, comme je suis. Je vais me lancer des fleurs, je suis assez perfectionniste. Le moindre petit truc me dérange. Donc, je peux pas être focus comme un mec qui est là ou une fille qui est là et qui vient kiffer les danseurs.
Tu ne vis pas comme n'importe quel autre spectateur.
Je déteste. Non, mais attends, je déteste, mais Juste Debout.
D'accord.
Et après, quand je regarde les images, quand j'entends les commentaires. Quand je vois les trailers, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux, je suis putain, ouais, quand même.
Ah, tu vois les commentaires, toi?
Ouais, je regarde tout.
Sam, moi. Les critiques.
Comment?
Tu les évites, les
commentaires? Je ne lis jamais les commentaires, c'est ce que je dis souvent aussi au MC, c'est que. Ouais, faut éviter. Après, c'est des humains. Ils ont envie de. Tout le monde a envie d'avoir des mots d'amour, des mots de. Mais il y a aussi. Ouais. Voilà, mais.
Mais c'est ce qui est fort. Parce que le mec qui te critique, c'est qu'il sait accaparer ton événement.
Ah oui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il c'est plus fort que lui. Il aime tellement le produit. Parce que si t'aimes pas quelque chose, tu réagis pas. Mmh. Si les gens qui réagissent, ça veut dire que ton truc il est fort.
Ah oui.
Et du coup, moi je regarde tout. Des fois ça pique, mais je regarde tout pour corriger, pour peaufiner, etc. etc. Donc des moments j'en ai eu, mais c'était.
Allez, bah vas-y, bah très bien.
Fax de Juste Debout 2005, Fax qui fait un ralenti, qui à Coubertin. Donc à l'époque, on était au stade Pierre de Coubertin, 6000 personnes. Et le mec, il fait un ralenti et il lève toute la salle, quoi. Mais vraiment, toute la salle qui crie, qui pleure. Enfin, tu vois, c'est 6000, c'est des moments, tu vois, même là, je t'en parle. Moi, je suis très, très émotif, donc j'ai des frissons. T'as des moments où, moi, j'ai fait aussi Juste Debout. Donc, quand tu danses au Juste Debout et que t'arrives à lever la foule, c'est comme si tu marquais un but à la Coupe du Monde, tu vois.
Ouais.
Mais vraiment. Donc,
est-ce que t'es plus client des battles solo ou en équipe? Ou en duo, parce que c'est beaucoup en duo.
Moi, j'aime bien les duos parce que je trouve qu'un beau duo, c'est le bon équilibre entre des chorégraphies et de l'improvisation. Ouais. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que j'ai créé le 2 contre 2, d'ailleurs.
Ouais.
Parce que le solo, c'est intéressant, mais c'est bien aussi de communier ce qui se passe de moins en moins dans le monde en plus. Et de se dire, voilà, avec ce partenaire-là, je vais aller affronter les danseurs, les plus grands danseurs du monde entier, quoi.
Voilà. Parce qu'il y a eu des beaux. Moi, j'en ai en tête hein, quand même. Il y a eu des beaux duos. Mmh. Bah, celui que tu avais fait contre Nelson, qui était pas mal.
Ah, Nelson et Gator. Ouais. Alors, Gator avec moi et Nelson et Franquet de l'autre côté. Ouais.
Voilà, c'est
juste
ça.
Juste au bout 2012.
Ouais. Moi, j'ai plus trop les dates en tête, mais bon. Voilà, y a des...
Moi non plus. Hein.
Non, mais il y en a eu des. Voilà, il y en a eu des très chouettes comme ça. Mmh. Et puis, depuis récemment, il y a aussi la catégorie enfants qui est assez chouette à regarder parce que.
Incroyable.
Quand on voit ce qu'ils font, les minots, on n'arrête pas de. Enfin, comme nous, on a tendance à avancer en âge, on commence à parler un peu comme nos parents parlaient à l'époque. Oui, mais les jeunes, ils font plus rien.
Non,
tu l'as
non.
fait un peu tout à l'heure, d'ailleurs. il l'a fait un peu. Là,
j'adhère.
Quand tu vois les minots ce qu'ils font, tu dis ah mais ils s'entraînent combien de temps par jour pour arriver à là. Donc moi j'aime bien aussi la catégorie enfant. Je regarde souvent des vidéos comme ça.
Ce qui est bien dans la catégorie enfant, c'est que tu dis qu'on a réussi une transmission.
Ce que j'allais demander. Est-ce que ça, c'est pas la meilleure des victoires?
Mais ça c'est la meilleure des victoires parce que tu vois quand tu vois tes élèves ou les élèves des autres arriver, des Chinois, des Américains, des Hollandais qui arrivent et qui sont sur scène, qui ont 10, 15 ans ou même moins, des fois 8. Tu dis waouh! Et qui arrive à danser mieux que des adultes.
Donc, quand tu étais à Champs-sur-Marne, quand tu as commencé, tu t'es pas dit.
Non. Non, bah comme toi, comme vous. Comme vous, les gars. Moi, j'ai commencé avec 400 personnes à la MPT Victor Jara. Comme ça, là, pareil.
Il y avait combien de personnes dans l'arrière de la chicha?
80, 100, je crois. Parce qu'il n'était pas très content, le propriétaire.
On va organiser un petit truc, on fait une dizaine de personnes.
C'est ça. Mais ouais, c'est ça. On n'était pas plus de 100. C'était, ouais, moi, je me rappelle beaucoup de la chaleur. Ouais. Ouais.
Donc 100 personnes pour le Rap Contender au début, 400 personnes pour,
ouais, 400 personnes pour, juste
pour le premier Juste Debout.
Et le deuxième Juste Debout, c'était à Champs-sur-Marne aussi. Et le mec de la MPT, il me dit « Mais tu crois que tu vas ramener combien là? Arrête de te la péter. » Je dis « Non mais là, je pense qu'il va avoir du monde. » À l'époque, j'étais modeste. Bon, je ne suis plus, j'ai compris que ça ne servait à rien d'être modeste dans le milieu. Et le mec, il me dit « Mais tu crois que tu vas ramener combien et tout ?» Le mec, 1200 personnes. C'est-à-dire qu'on a attendu 800, deuxième année 1200. Débordé, ah ouais. Des émeutes à l'entrée. Voilà.
Quand t'as vu le monde arriver au début, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais quand t'as vu le chiffre exact de personnes attendues, tu t'es pas dit il y a un bug?
Bah, je me suis dit, non, j'étais tellement fatigué. Non, je me suis dit que j'en attendais 800, mais que tu vois le bouche à oreille comme pour vous les gars. Le bouche à oreille a fait un tel truc. Et puis moi, c'est il y a 25 ans. En fait, c'est la 20e édition cette année, et c'est il y a 25 ans parce qu'on a eu arrêté pendant le Covid 5 ans. Et c'était en 2002 donc 2002-2003. C'était pour l'époque, il n'y avait pas Internet encore, ouais, en plus, ouais. Comme maintenant. Quoi, ah, tu vois.
C'est fou quand même. Ouais. Mmh. Ouais.
Il n'y avait pas la possibilité de savoir à l'avance, t'organises un événement et puis bon, bah, tu vois bien ce qui va se passer.
Bouche à oreille.
Bon, alors, on va faire un petit retour en arrière, parce que je vous ai interrogé sur la question de savoir si les clashs existaient depuis toujours, mais on a Fiona qui a un peu travaillé le dos et elle va nous parler de ça dans sa chronique. Que j'ai intitulé Hip-Hop History.
Entre punchline polémique et réseau en feu, aujourd'hui, on plonge au cœur des clashs qui font vibrer le monde du hip-hop. Des duels légendaires comme Nas contre Jay-Z, Gucci Mane contre Young Jeezy ou encore Tupac contre Biggie, sans oublier Drake face à Kendrick Lamar. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous savez ce que c'est vraiment qu'un clash ? Jotting information on my nation. Really started from the bottom boy cotton. But they still planted plantations. We keep buying it. Close-minded man. Products higher than the prices on your products. And Balenciagas. Balance my saga with the Henny Agua. Me and my n***a trying to eat you empanada. The flow like plenty lava. With just a penny I can multiply my worth and make you work for me for 20 hours. I swear these blood to copy. Thanks for listening. Nigga, they been the saints since Biggie smacked me at my christening. Watch what you dishing in. Please play it safe cause your position on the top. Souvent, on confond les clashs avec les battles de rap, ces affrontements scéniques où deux rappeurs se défient à coups de rimes, mais dans un esprit de compétition artistique sans réelle haine. On les confond aussi avec les polémiques médiatiques, alors qu'un vrai clash fait partie intégrante de la culture hip-hop. En réalité, un clash, c'est une confrontation verbale entre deux rappeurs qui s'expriment à travers des paroles,
des freestyles ou parfois des messages virulents sur les réseaux sociaux. C'est à la fois une manière de prouver son talent, d'affirmer son ego et souvent de faire parler de soi. School, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him and talk on my checkbook. Alors, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, personnellement, mon clash préféré, c'est celui entre Drake et Kendrick Lamar. Les sons qu'ils ont composés un contre l'autre sont toujours dans ma playlist, d'ailleurs. Je trouve que c'est un clash emblématique, car parce qu'il réunit tout, les égos, les punchlines assassines, et surtout, deux styles complètement opposés. C'est un vrai affrontement de géants du rap moderne qui a marqué les fans du monde entier. En 2011, Kendrick Lamar et Drake semblent inséparables. Amis, complices sur scène, ils collaborent même sur le hit Poetic Justice. Mais tout bascule lorsque Kendrick lâche Control, son morceau explosif avec Big Sean et Jay Electronica. Là, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il annonce vouloir anéantir les carrières de plusieurs rappeurs. Et devinez quoi ? Drake est dans la première ligne. Bien sûr, Drake ne se laisse pas faire. Avec The Language, extrait de son album Nothing Was The Same, il semble répondre directement à Control de Kendrick. C'est à ce moment que débute véritablement le clash entre les deux rappeurs, un affrontement qui a marqué toute une génération, surtout celle de la Gen Z. Depuis 2013, ils s'attaquent à travers leurs chansons, leurs interviews et même sur de grandes scènes comme le Super Bowl où Kendrick humilie publiquement Drake avec son titre « Not Like Us ». Il lance notamment la phrase « Say Drake, I hear you like M. Young ». Clairement ciblé. Cet échange montre comment un clash dans le rap peut dépasser la simple musique pour devenir un véritable moment culturel, médiatique, voire sportif, un affrontement sur scène suivi par le monde entier. Deux stars, une scène et des millions d'yeux rivés sur chaque mot.
Yeah. Bravo.
Bravo. Bien.
Merci beaucoup.
Très bien expliqué.
Génial. Ce morceau mythique, Not Like Us. On n'a pas un extrait de Not Like Us ? Ah. Hey. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak, though. Man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor.
Aïe, aïe, aïe.
They're probably A minor.
Je disais, ouais, on est allé l'écouter. Enfin, moi, je sais que pour ma part, j'ai dû aller regarder au moins 3-4 fois la vidéo tellement j'arrivais pas à croire qu'il ait osé.
Ouais, c'est une folie.
Je trouvais ça.
C'est une dinguerie.
Tellement culotté.
Ouais.
C'est tellement culotté, quoi. Et pour moi, quand tu te souviens, quand tu m'as parlé du thème La rentrée des clashs, je pense que je fais partie du milieu hip-hop où pour moi, le rap, le hip-hop, c'est d'abord et avant tout des clashs pour moi. C'est-à-dire, quand elle m'en a parlé, j'ai pris vraiment le truc dans le premier sens. Genre, OK, que du bif, quoi. Pas de problème. Il y a que... Donc, j'avais une question. Est-ce que
donc,
tu Maristan trouves...
à Bad Sam.
Ouais, Bad Sam. Est-ce que tu trouves que ça s'est un peu assagi, les Contenders, par rapport à il y a une vingtaine d'années?
Non, puisque maintenant, on a les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Donc, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus amplifié. Alors, si, tu t'imagines aujourd'hui si on avait le clash là, Biggie et Tupac, oh là, aujourd'hui avec
magique.
Les réseaux,
ah ouais.
Twitter, tout.
Ouais.
Donc non, c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus amplifié, c'est beaucoup plus écouté. Enfin, tout le monde. En plus, le public rap s'est élargi depuis le temps. Donc forcément, si je donne l'exemple de Booba, par exemple, moi j'écoutais Booba, j'étais au lycée. Non, au collège même. Donc voilà, je vais pas donner mon âge, mais voilà, aujourd'hui, j'ai des nièces à moi qui étaient au concert à l'Arena. Donc, et ça fait des années que c'est un pilier aussi dans le rap et qui est un des gars qui est là, qui est connu aussi pour ses clashs, pour ses pics, etc. Donc, non, c'est même pas l'époque, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plateformes pour pouvoir exposer ça. On parlait de Kendrick. Je crois que c'est le morceau le plus écouté de l'année dernière, je crois, sur Spotify. Ouais. Donc, ça en dit long. Quoi.
Et d'ailleurs, ça, c'est
et
un...
Juste pour finir là-dessus, c'est que les gens aussi, ils ont un... Je ne vais pas dire qu'ils sont vicieux, mais les gens aiment le sang un peu.
Ah bah,
les gens, ils aiment bien... C'est comme un peu, comme on dit souvent nous dans notre discipline, c'est que c'est comme à l'époque des gladiateurs. Ils aiment bien aussi avoir... C'est un défouloir.
Mmh.
Et comme on dit souvent aussi dans le rap contenders, dans les battles... Le fait de pouvoir mettre à nu son adversaire, parce que le but c'est ça en fait.
Ouais.
Ton adversaire c'est de le.
Bah, l'humilier, le
déstabiliser,
déconstruire. Ouais,
déstabiliser uh-huh. par tous les moyens, uh-huh. des fois même par des fake news. Uh-huh. donc ouais, ça fait partie du truc et les gens ils sont intéressés. Donc tant que ça intéressera les gens, et ça c'est depuis des millénaires, peu importe la discipline, même dans les, on va dire dans la variété, il y a eu des clashs, il y a eu des battles, donc ça changera pas.
Uh-huh. Donc effectivement, il y a quand même les réseaux internet qui font une caisse de résonance qui amplifie effectivement. J'aurais adoré que Hit 'Em Up sorte à une époque
là là.
Où ça aurait pu devenir viral sur les réseaux. Dans les imaginez. Oh là là.
Mais même encore, il doit être. Je pense que là encore, les chiffres ils doivent être bons hein, pour Hit 'Em Up. Hein.
On regardera.
Ouais, à mon avis, il faut regarder.
Mais c'est vrai que j'ai même l'impression que c'est devenu aussi un critère parce qu'on est en train de parler du morceau de Kendrick Not Like Us. C'est devenu aussi un critère pour dire qui a gagné le match en quelque sorte.
Ouais. Dans le sens où. Il y a des gens qui se posent encore la question.
Les pros de Drake. Drake a pas. Perdu de ouf.
Il y a quand même un Super Bowl, quoi.
Non, mais bon, l'idée, c'était plutôt de faire une transition. On va pas refaire le match.
Mais
Drake,
il y a un côté aussi où peut-être, pour moi, il y a aussi un truc, c'est que Drake, il n'est pas américain. Donc peut-être aussi, ça joue.
Bien sûr. Oh, c'est vrai. On voit qu'on a des pros Drake dans la salle. On a des pros Drake. OK. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir. On ne va pas se lancer là-dedans. Mais l'idée, c'était plus de vous lancer. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant des règles du jeu dans les différents battles. Mais j'avais quand même, du coup, en tête, pour faire la transition avec ce que nous disait Fiona et les clashs actuels, notamment celui de Kendrick Lamar et de Drake, c'est que donc, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu aussi un critère de choix à côté des différents critères que vous allez sans doute nous énumérer, mais pour juger de qui a gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une époque, comme il n'y avait pas les réseaux, on décidait, je sais pas, sur le flow, sur la fluidité du danseur, etc. Maintenant, il y a un autre critère qui s'est rajouté, c'est combien on a eu de vues sur cette vidéo-là.
Ouais, c'est intéressant. Après, moi je reprends juste sur... Sur la séquence d'avant, je suis désolé,
mais
très rapidement,
allez.
C'est que pour moi, pour la danse, c'est devenu super lisse. Ça m'énerve, ça m'agace.
Ah,
et tu vois, ce que j'ai bien aimé dans Rap Contenders, c'est que j'ai retrouvé cet esprit hip-hop qui dit à un moment, tu m'emmerdes, quoi. Tu vois.
Okay.
Et dans la danse, justement, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de cours de danse, de battle, de jugement, enfin, quand tu vas juger dans un autre pays, de compagnie, etc., etc., que les gens font tellement attention à leur image qu'ils sont devenus lisses, les mecs. C'est horrible. Je reconnais pas mon hip-hop. Voilà, bon, ça, c'est mon côté vieux con. Mais sinon, voilà, pour répondre à ce que tu as dit par rapport au jugement donc, et les critères, ça dépend tout simplement du juge qui est en face. Si c'est un défi, donc un clash non organisé, c'est le public qui jugera, hein, avec les réseaux sociaux, avec les vues sur Internet, avec les commentaires, etc., etc. Et ça fera le game. Si c'est un battle un peu plus organisé avec des entrées payantes, en général, il y a des juges.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail pour quelqu'un qui ne serait jamais allé à un battle, lui expliquer qu'est-ce qu'il va voir, comment ça se passe, comment c'est organisé?
Alors, il va voir un événement culturellement hip-hop en général et il va voir des présélections. C'est-à-dire qu'au début, Il y a plein de danseurs qui arrivent dans des styles différents. Donc ça peut être en popping, locking, hip-hop, house. Pour les néophytes, c'est des courants de danse qui sont nés avec les courants musicaux. Donc que ce soit sur la funk, sur la house, sur le hip-hop et même sur les breakbeats pour le break. Le break, c'est la danse au sol que vous avez vu au JO avec l'Australienne. Non, pardon, ça va couper ça. Et du coup, quand tu vois les sélections, tu dis, bon, bah voilà, les juges, ils voient 200, 400 danseurs.
Donc il y a d'abord des présélections. Exactement. Genre, moi, demain, je peux m'inscrire.
Exactement. Tout le monde peut s'inscrire en général. Après, il y a des battles où on appelle des guests et là, c'est fermé. Mais en général, les battles, c'est ce qui est bien. C'est culturellement, tu danses depuis 2 jours ou 20 ans, tu peux participer aux présélections. C'est ce qui nous rassemble aussi. Et de là, bon, les juges, ils ont une grille de notation.
Alors, c'est qui ces juges ?
Alors, en général, c'est des protagonistes du mouvement hip-hop ou de la street dance et qui sont connus et reconnus par leur père. C'est-à-dire que, par contre, si toi, tu arrives et que tu ne danses pas, tu ne pourras pas juger un battle comme ça, à moins que ce soit le concept du battle.
Toi, par exemple, pour le Juste Debout, comment est-ce que tu les choisis, tes juges ?
Alors, moi, j'ai choisi sur différents critères. Déjà, ils sont 3 mois en tournée dans le monde entier. Donc, Amérique, Afrique, Asie, Europe. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, tu peux être le meilleur juge du monde, le meilleur danseur du monde. Si t'es con, je te prends pas avec moi, excusez-moi du terme. Parce que tu peux faire sauter une équipe, quoi. C'est 3 mois où les mêmes juges voyagent ensemble.
Donc là, il y a quand même une spécificité du Juste Debout qui est que voilà. C'est pas juste un événement. Mais imaginons, sur un événement, c'est quoi le critère pour choisir un juge ?
Pour moi, c'est crédibilité, street credibility, street dance credibility. Alors, quand je dis street dance credibility, c'est pas street credibility. La différence, c'est que street credibility dans le rap, c'est qu'il faut être un méchant. Street dance credibility, c'est qu'il faut avoir fait ses armes. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait des battles, il faut être pédagogue, il faut avoir un certain savoir, un knowledge sur la danse hip-hop. Et voilà. Et puis après, même si on prend des plus jeunes, c'est des jeunes qui ont quand même pas mal bourlingué, qui savent de quoi ils parlent et qui maîtrisent leur art. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, dans la danse hip-hop et dans le hip-hop, c'est que t'as pas de trône si tu le mérites pas, quoi. Et ça, c'est beau. C'est pas ce qui se passe en politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des trônes, on sait pas pourquoi ils sont là. Des fils d'eux, des filles d'eux, tu sais pas. Nous, c'est impossible. Si tu sais pas danser, tu peux pas être là. Et c'est ce que je trouve. Je dis souvent que la politique, la plus belle politique du monde, c'est celle du hip-hop. Parce qu'elle est cash, elle est sincère, elle est franche. Et donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour les critères...
on commence à voir un petit peu. Donc, ouais. On a des juges qui sont choisis parce que c'est des danseurs eux-mêmes qui ont fait leurs armes. En gros, tu n'es pas danseur, tu ne peux pas juger un battle de danse, ouais. Ce qui fait sens. Et puis, il faut en plus que tu ne sois pas n'importe quel danseur qui arrive du jour au lendemain. Il faut que ce soit quand même... Que tu sois quelqu'un qui a une certaine autorité, qui fait autorité dans le milieu. En gros, il faut que tu aies tapé du monde, quoi.
Exactement.
C'est ça. Et... Alors, il y a aussi ce côté pédagogue, tu disais.
Ouais, parce que
t'en as qui sont très bons danseurs, mais qui ont peut-être trop d'affect quand ils vont juger certains danseurs et qui vont dire, bah tiens, lui, c'est mon pote, donc je vais, même s'il fait n'importe quoi aujourd'hui, je vais le valider.
Ça, c'est le manque d'impartialité. Mais par contre, par rapport à la pédagogie, j'insiste parce que quand un jeune vient te voir et dit pourquoi j'ai perdu ou qu'est-ce que je dois améliorer, tu dois être capable de lui expliquer pourquoi.
Et toi, ça, c'est un truc qui est important.
C'est super important pour la transmission. Parce que si le juge, il dit, ouais, t'as perdu parce que, vas-y, tu me plaisais pas, ça n'apporte rien au mouvement. Alors que si tu dis, là, tu vois ton pied, à un moment, il a fait ça. Voilà, là, c'est constructif. Et donc, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant.
OK. Alors, une fois que les juges sont choisis, que t'as pu rentrer dans l'arène, que t'es arrivé, que ça fasse 2 jours que tu danses ou 20 ans, tu te retrouves aux présélections. Comment ça, le battle, il dure 1 heure, il dure 50 secondes.
Ça dépend des events. Moi, mon événement, il dure 10 heures parce qu'il y a 4 catégories. Il y en aura 4 autres l'année prochaine. Donc, c'est sur 2 jours, voilà. Mais tu as des battles qui durent 2 heures, 3 heures parce que c'est qu'une catégorie. Mais en général, ça se fait en quart de finale.
Alors attention, parce que quand tu dis ça dure 2 heures, 3 heures, là, il y a des gens qui sont en train de s'imaginer que les danseurs dansent 2 heures, 3 heures non-stop.
Tu as raison de me corriger. Pardon.
Non, je t'en prie.
Ça se passe en quart de finale. Donc, ou en huitième de finale. Donc, tu as 16 danseurs au début ou 16 équipes. Après, tu en as 8. Après, tu en as 4. Après, tu en as 2. Donc, ça tourne de rôle. Et en général, les danseurs, ils dansent 1 minute par round. C'est comme des rounds et ils dansent 1 minute.
Voilà. C'est comme en boxe.
Bah, la boxe, c'est beaucoup plus dur. 3 minutes. Moi, j'ai fait de la boxe, j'ai arrêté. Déjà, j'étais nul.
Il s'est dit, c'est trop difficile, je vais mettre.
Non, mais c'est magnifique. La boxe.
3 minutes, il a arrêté.
Ouais, 3 minutes. Ouais, non. C'est trop fort, la boxe. Mais bon, je ne dénigre pas la danse. Voilà. Mais voilà. Et du coup, et à la fin, t'as un vainqueur ou des vainqueurs ou une vainqueur.
en fonction de la catégorie et puis en fonction des juges.
Et alors, comment ça se passe? Parce qu'on a combien de juges en général pour un battle?
En général, si, par exemple, si tu as un battle dans une discipline, disons le break, en général, on prend 3 juges pour que ça soit tranché.
Ou ce soit impair.
Exactement. Parce que si c'est pair, tu tombes sur des trucs, 2 d'un côté, 2 de l'autre, c'est compliqué. Donc en général, c'est toujours impair. C'est 3, 5, 7. Voilà.
Et c'est, ils ont un petit bulletin, un vote à bulletin secret.
Non, ils votent à. Alors en général, on vote. Alors c'est très cash dans l'hip-hop et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on vote à main levée. C'est-à-dire que tu ne peux pas mentir, dire oh, « moi, j'avais voté pour toi ». Non, c'est là tu te dis à gauche, à droite, et le mec après vient te voir « pourquoi tu n'as pas voté pour moi ?»
Et en général, c'est au top, chacun désigne
exactement. Il y a
la
MC,
personne pour qui
il y a un MC voté. Qui est un maître de cérémonie qui gère, qui dit voilà, Pierre contre Jacques, et les juges, 3, 2, 1, votez. Et ils votent, et on désigne le vainqueur.
On désigne le vainqueur qui passe à l'étape suivante.
Exactement.
Voilà, je pense que maintenant, les gens qui ne sont jamais allés à un battle voient un petit peu mieux ce qui les attend en mars prochain quand ils vont aller
au
Juste Debout. Est-ce que tu retrouves un peu, Sam, des choses dans les règles ou c'est très différent pour les...
C'est différent dans le sens où nous, par contre, au niveau des juges que l'on prend, c'est plus des personnes qui gravitent dans le hip-hop, autour du hip-hop.
Il ne faut pas forcément être
pas
un.
Pas faire de battle, parce qu'il y a des MC, il y a des beatmakers. Des fois, ça peut être des journalistes qui sont juges. Donc là, c'est un peu plus large. Par contre, à la différence de votre exercice, c'est que nous, comme les jugements sont filmés, les MC, quand le battle, ils ont leur battle, ils ne regardent pas le battle. Ils vont directement à la fin regarder la vidéo, voir ce qu'a dit le juge.
Ah, d'accord.
Ils ont tous le réflexe de regarder d'abord ce qu'a dit les juges. Celui qui a gagné, lui, il est tranquille, il va regarder le battle, il va voir. Mais celui qui a perdu, il va aller d'abord voir ce qu'a dit les juges avant de regarder son battle.
Okay.
Pour analyser. Et c'est ça un peu la différence par rapport à vous. Mmh. Mais nous, ça peut être là. D'ailleurs, on fait un concours pour prendre le meilleur. On va prendre 2 personnes du public pour venir juger un battle au prochain événement.
Ah,
parce que c'est pareil. Souvent, il y a le côté oui, mais le juge. Il est payé, je sais pas quoi, comme si on était des hommes politiques, on payait des, on donnait des pots de vin aux juges pour pouvoir donner un vainqueur, alors que encore une fois, c'est leur dans leur âme et conscience, sur l'instant T, dans le momentum, comme on dit. Donc on a lancé un petit concours, on s'est dit bon, comme il y en a beaucoup, le FC Twitter, comme on dit souvent, ils sont là à dire c'est plus facile derrière son écran. Bah du coup, là, le concours, c'est de prendre 2 personnes. Évidemment, on nous envoie des vidéos, on va sélectionner, parce que sinon, on va s'en sortir et on va mettre 2 personnes le jour de l'événement, en live, et vont juger, comme les juges qu'ils critiquent, et on verra bien s'ils sont capables de donner un avis aussi objectif derrière leur écran qu'en live, devant plus de 1000 personnes, devant des MC qui te regardent. Et,
intéressant.
Et voilà.
Oui, c'est sûr que c'est autre chose. Alors, je vais te poser du coup la même question que à Bruce. Une personne qui n'est jamais allée à un événement rap contender, s'il va demain, à quoi il doit s'attendre? on l'entend pas trop, mais il y a ton acolyte.
Voilà,
là,
comme dirait Stunner là, qui n'a pas le micro, il va voir de la bagarre.
Non, il avait dit du sang.
Voilà.
T'as vu comment il a voulu te censurer?
Il a voulu te protéger. C'est ça.
On fera tourner le micro pour que tu viennes parler.
Exactement.
Après, j'ai l'impression qu'il est plus cash.
Il a des choses à dire. voir du spectacle, en fait. Et
mais
comme
concrètement,
tu disais tout à l'heure, en fait,
comment ça s'organise?
Alors,
un battle à cappella, il ira pas pendant 3 heures, les pauvres.
Non, alors un battle classique, one versus one ou un contre un en français, ça dure en général 15 bonnes minutes, c'est-à-dire qu'ils ont des 3 rounds, chacun a 3 rounds pardon de 1 minute 30, 1:45. Le tout avec donc du coup nous les MC, et chaque round ils sont timés, et à la fin des 3 rounds les juges donnent leur délibéré. À la différence de vous, ce n'est pas en public. Les juges nous donnent le résultat. Nous, on le donne en live. Eux, ils vont dans une pièce pour donner leur délibéré, qui est filmé, qui est ensuite est le délibéré. En fait, si vous voulez savoir ce que du coup a décidé le juge, il faut aller voir du coup, quand ça sort sur YouTube. Voilà un peu la différence. Et donc, pendant 3 rounds, chacun fait ce qu'il veut, sauf qu'il peut. Et à toi de convaincre le public. Pas forcément les juges des fois, parce qu'il y en a, ils viennent des fois, c'est pas de convaincre les juges, c'est de convaincre le public. ou de se convaincre à eux-mêmes que c'est les plus forts. Mmh. Voilà.
Et pareil, il y a un nombre impair de juges, du coup.
Oui, c'est ça.
Combien ?
Alors, pour les battles normaux, il y a... Là, parce qu'on a des... souvent, on a des finales, des battles pour le titre. Les battles pour le titre, il y a 5 juges. Et pour les autres battles, il y a 3 juges. Voilà, toujours des nombres impairs.
D'accord. Ouais, est-ce que le public, c'est le quatrième juge ?
Ça peut arriver, mais il compte pas. Il compte pas. À la fin, c'est ce que décide le juge.
Et comme ça, là, en vous écoutant tous les deux, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des battles auxquels vous avez assisté ? Vous avez eu vraiment l'impression qu'il y avait... qu'il y avait le public qui avait été retourné et que, oui, en gros, les juges, c'était impossible qu'ils aillent dans l'autre sens, quoi.
Ah bah moi, c'est arrivé qu'ils aillent quand même dans l'autre sens et qu'ils se fassent huer.
Ouais.
Non, mais c'est génial. Ça arrive,
moi, j'aime
ça
beaucoup
qui,
ça.
C'est ça
où... bah, moi, j'aime beaucoup parce que les mecs, les juges, ils lèvent le bras et le public, il fait « Comment ça wow, c'est... » Et moi, je kiffe ça parce que bah, c'est vivant.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le spectacle vivant. Mmh. Et par contre, il y a un autre truc que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux critères de jugement, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la culture danse, il y a le call-out. Call-out, c'est ouais. « Ah ouais, t'as pas jugé pour moi ? Je te call-out. » Et c'est pour ça que...
Alors explique.
Alors le call-out, c'est t'es tranquillement sur ton siège de juge, par exemple, et t'as pas jugé convenablement pour un des protagonistes qui est sur scène, et il te dit « Ouais, comment ça ? Je te call-out. » Call-out, ça veut dire « Je te défie. » Et donc, toi, tu dois... C'est pour ça que c'est un critère de valeur pour moi, pour choisir mes juges, c'est qu'ils doivent être capables de répondre à un beau call-out. Donc si t'es has-been en danse, tu ne pourras pas répondre au call-out. Et pour moi, c'est important de pouvoir... Et d'ailleurs, je me suis toujours promis, moi, parce que je juge aussi des battles, je me suis dit, le jour où je ne peux plus répondre, je ne juge plus.
D'accord. Ouais.
Donc voilà, c'est le call-out, c'est le défi en direct.
Alors, dans ce qui se passe dans les battles, du coup, ça me fait penser, et je suis en train de me demander là avec ce que tu dis, est-ce que c'est pour ça qu'en général, dans les battles, on voit les juges faire des démonstrations ?
Ouais, exactement, parce que encore une fois, c'est une culture très puérile et on croit ce qu'on voit, comme Saint Thomas. Voilà, le juge, il est là. Ouais, ok, t'es là, mais est-ce que tu mérites ton trône ?
Voilà, donc j'explique pour préciser ce que j'étais en train de dire. C'est qu'en fait, quand les juges viennent sur scène s'installer sur leur siège, ils sont bien en place, quoi. Voilà, avant de s'installer, ils doivent faire tous une petite démonstration.
C'est très culturel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui refusent parce qu'ils sont blessés ou autre, ça on comprend. Mais les juges qui ne veulent pas faire de démo, en général, c'est très mal vu.
Ouais.
Parce que tu n'es pas juge, n'est pas juge qui veut, en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant, encore une fois, parce que c'est cash, voilà, tu mérites pas ta place, voilà.
Maristan ?
En fait, aujourd'hui, moi, je me dis, j'ai connu les battles de danse.
Mais je te connais, toi, de toute façon. Tu as vu plein de fois.
Ah ouais ?
Ouais.
Alors, moi, je les ai fait à la Défense.
Ouais, voilà, avec Yuval.
Donc, ouais. Donc, ouais. Moi, je me dis, aujourd'hui, nous, les battles, à l'époque, bah, c'était les cris, les claps, quoi.
Exactement.
Si t'en avais pas, bah, tu rentres chez toi en pleurant.
C'est le meilleur salaire.
T'allais au 1000%, Maristan ?
Ouais, devant les miroirs. Mais c'est comme ça que j'ai même appris à faire du hip-hop sur des vidéos de MTV que j'enregistrais sur des cassettes que j'avais volées à mon grand-père, tu vois. Je me levais la nuit en cachette. Enfin, je pense que les premiers, on a tous fait ça à peu près. Et ouais, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, c'était quand même cool cette époque où c'est vraiment le public qui jugeait. Mmh. Voilà, je fais ma puriste. Mmh. Mais moi, j'aimais bien ça, en fait, quand le public, aime le sang. Et donc, donner son avis, c'était cool quand même.
Non, mais c'était un public averti à l'époque.
C'est
parce
vrai.
Que, tu vois, c'était toi, tu connaissais hip-hop. Mmh. Aujourd'hui, tu fais payer une salle, il y a monsieur et madame tout le monde qui vient, qui ne comprennent rien à la danse. Et c'est un danger de faire voter des fois des gens qui... Toi, tu connais la culture hip-hop, mais il y en a d'autres.
Ouais, ouais. Voilà.
C'est pas grave.
C'est comme ça.
Bienvenue quand même, mais...
Ouais. Nous, on a eu du mal un peu au début à se dire qu'on est un public large et diversifié. Et en fait, c'est cool.
Oui.
Est-ce que vous avez vu une évolution du public, justement, que ce soit pour les Juste Debout ou pour le Rap Contender ?
Complètement.
Parce que tu parlais de public averti, Bruce, juste à l'instant. Est-ce que tu parlais de manière générale,
oui,
j'ai l'impression ?
De manière générale.
Mais est-ce que ça, tu l'as vu dans le Juste Debout ?
Bah, la Défense.
Et je te poserai la question aussi.
À la Défense, forcément, c'était un public averti, puisque c'est pratiquement que des danseurs. Au premier Juste Debout, c'est que des danseurs, c'est 400 personnes. Mais quand tu remplis un Accor Arena, c'est familial.
T'es obligé.
C'est-à-dire que t'as allé 20% de danseurs et le reste, c'est des familles. Donc, vaut mieux pas faire juger. Enfin, tu peux, mais ça va plus avoir la même couleur à la fin. Il faut pas. Enfin, voilà. Pour moi, c'est une erreur culturelle de faire juger n'importe qui un art qui est si noble. Et c'est très radical ce que je dis. Je suis désolé, mais je le pense, donc je le dis.
On sent qu'il est là-dedans depuis longtemps.
Je suis en train de me dire quand même qu'on ne va pas se mentir, hein, le milieu du hip-hop, si tu dois remplir un accord aréna, c'est compliqué quand même.
Ils ne vont pas payer déjà.
Mais voilà, soyons honnêtes.
Si tu invites tout le monde, ouais.
Oui,
ouais.
Vraiment tout le monde. Ouais.
Et oui, puis, mais... tout le monde est légitime en plus. Ouais. Mais comment ça?
Alors, oui, la question se pose de, à la fois de qui est légitime pour juger et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il faut être un initié? Est-ce qu'il faut que ça plaise à tout le monde? Mais du coup, ça ne donne pas le même ressenti, effectivement. Après, bon, moi, je vous laisse faire votre opinion là-dessus.
Et puis après, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'un danseur se doit de faire réagir le public. Donc, même s'il a le vote des juges, je pense que si tu passes, tu as le vote des juges, mais tu n'as pas fait réagir le public, tu as perdu quand même. Parce qu'un artiste, ça doit faire réagir le public. Donc, le juge, il est quand même là, il est sous-jacent. Le public, il est quand même juge, quoi. Et puis, moi, j'ai perdu la plupart de mes battles. Par contre, j'ai fait des millions de vues sur Internet en perdant. Et donc, quelque part, tu dis, bon, bah, voilà, j'ai perdu, mais je m'en fous parce que le public
quelque part,
kiffe,
gagnes,
quoi. Voilà, exactement.
Ça, c'est un peu des fois ce qui nous arrive quand on a des MC qui sont super déçus parce que la plupart sont mauvais perdants. Ce qui est normal.
Au milieu du hip-hop, toujours.
Toujours.
Comme ceux qui
ne
payent pas.
Des fois, on leur dit, mais en fait, au final, c'est quoi le plus important? C'est que le public ait kiffé, que, comme tu dis, après, il y a des gens qui reconnaissent ce que tu as fait, ils disent le public, les commentaires disent que tu as fait un bon battle, donc c'est quoi le plus important? C'est que tu es perdu ou tu as de la visibilité, des gens qui te félicitent? Il y a juste un milieu à trouver. Donc des fois, oui, encore une fois, le juge, c'est son avis sur le moment, c'est comme ça, mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est que les deux personnes qui font une prestation, c'est plus important que tout, en fait. C'est comment t'emmènes le public. Quand on voit des gens qui sortent des fois de la salle et qui se disent « ouais, merci pour tout », on leur dire « ah ouais, on vient de l'Eclipse, une arrière-salle de chicha, t'as des gens qui viennent des fois de je ne sais pas où, qui font un week-end à Paris ». Ça nous est arrivé même à des événements où il y a des personnes, ils viennent juste à Paris pour voir un rap contenders. On revient tout à l'heure à ce qu'on disait, si on nous avait dit ça quand on était à l'Eclipse. Non, enfin, j'aurais pas cru, quoi. Donc,
ouais. Le maximum d'affluence que vous avez eu sur un événement, c'était où et combien?
Cabaret Sauvage, donc 1300.
Ouais. Ok.
Mais c'est surtout pour le rap contenders, parce que là, tu 1300, mais il faut voir le nombre de vues qu'ils font sur Internet.
Ah, c'est pour ça, moi, je pensais que ce serait plus, mais vous avez un impact qui est tellement plus grand que ça.
C'est
chouette que ça reste dans une petite salle, moi, je trouve ça.
Ah, c'est aussi. Après, ça reste.
Il y a d'autres problématiques qui se posent pour la
problématique. On a une discipline qui n'est pas assez reconnue. On ne va pas se plaindre, hein, mais. Par rapport à certains pays, je ne vais même pas parler d'Amérique, mais les Anglais, les Portugais, ils ont... Et alors, en Amérique latine, c'est encore autre chose. On a vraiment ce déficit-là, mais nous, on est contents parce que encore une fois, on est parti de pas grand-chose et on est encore indépendant, on fait les choses comme on peut. Et on fait des millions de vues, comme tu dis.
Ouais, c'est ça.
Et à l'époque, en plus, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était je ne sais plus qui nous avait dit ça. En fait, quand on est arrivé sur YouTube, aujourd'hui, quand on dit la casse et Internet, eh ben nous, c'était un peu ça à l'époque. En fait, on est arrivé sur YouTube, on était dans les trois plus gros trucs qui étaient regardés sur YouTube, en fait.
Donc, ah oui, quand même.
On était les premiers influenceurs de YouTube avant l'heure.
Nous, ah, j'aurais dû te présenter comme influenceur.
Alors,
en fait.
Wow, ouais.
Bad Sam, influenceur, contender.
Vie entre Dubaï et Paris.
C'est mon neveu qui va être jaloux, là, du coup. Ils veulent tous être influenceur aujourd'hui.
C'est ça,
donc,
c'est ça. Influenceur. Tu vois, donc tu pourras lui dire, écoute, tonton, il était influenceur avant l'heure.
Mais ouais, c'était incroyable. Donc oui, à voir aujourd'hui... autant de public encore qui viennent voir cette discipline. Pour moi, même si ça fait 15 ans, on est là, ça reste une jeune discipline en France, en fait.
Okay.
Donc, nous, on a l'espoir que dans les années qui viennent, qu'il y ait de plus en plus de MC qui pratiquent la cappella. Parce qu'il y a aussi le côté où on se dit, faut pas se mentir, il y en a, ils ont vraiment la peur de venir s'affronter eux-mêmes, en fait. Parce que c'est facile d'être... sur un instru dans sa chambre ou peut-être en bas du quartier de faire son instru et tout. Et ce qui est... Alors là, je parle vraiment de l'époque. Je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des rappeurs ne prennent plus le risque d'aller faire des open mic, des freestyles. À partir du moment qu'ils sont dans leur chambre et qu'ils ont eu 1000 likes, 200 000 likes, ouais, t'es le meilleur. Mmh. Pour eux, c'est les meilleurs. Mmh. Mais non. En France, il y a des
viens dans l'arène.
Viens et teste-toi. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas avancer, en fait.
Moi,
et...
C'est un exercice qui est quand même très risqué pour quelqu'un qui a réussi, par exemple, à percer sur TikTok ou autre parce qu'il a fait des vidéos qu'il a recommencé un certain nombre de fois. On peut comprendre qu'effectivement, il n'ait pas envie de prendre des risques à aller se tester dans cet exercice-là.
Même la personne qui bosse sur TikTok, tu lui fais faire un concert, je vais donner une petite salle. Même la boule noire, il va arriver, il va être devant ses fans. Bah, vas-y maintenant.
Ouais. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Là, t'as un écran, t'as des gens qui t'envoient de la force, tant mieux. Mais il faut aller sur le terrain. Comment il s'appelle, Stomy, qui avait fait de la danse, qui disait...
Stomy Bugsy. Hein.
Stomy Bugsy du Mystère.
Faut le sentir, le sol, tu vois, faut... Les chutes, tout ça. Et c'est pareil, tu vois, les bides, il faut en faire des bides. Sinon, tu sais pas où tu vas, en fait.
Ouais.
Et c'est important, la scène, c'est important de le ressenti, même se faire huer, ça arrive. Il y a des MC qui arrivent, des fois, ils sont préparés, je sais pas combien de temps, ils font une line, une phase, personne réagit.
Ça, c'est dur.
C'est dur, mais c'est comme ça. Et la fois d'après... Deux secondes après, il fait une autre phase, bim, c'est le meilleur.
Ouais.
Le round d'après, il se fait siffler. Enfin, c'est tellement aléatoire que, à part du moment où tu as géré ça, moi je trouve que quand tu as fait le rap contenders, par exemple, ou d'autres disciplines comme ça de freestyle, après, quand tu fais des concerts, ça passe tout seul. Je trouve. Hein.
Ouais. De toute façon, dans la culture hip-hop, pour moi, tu as parlé d'un mot qu'on n'emploie plus réellement, et qui est important, c'est le freestyle. Parce que c'est une culture de freestyle. Mais en danse, c'est pareil. On voit plein de chorégraphies, tout ça, partout, maintenant. Mais le vrai hip-hop que nous, on aime, on chérit, c'est la culture de freestyle. Ouais. Et même moi, ce qui me choque un peu maintenant, alors pas au Rap Contenders, parce qu'on voit qu'il y a du potentiel, mais moi, je les vois dans d'autres émissions de radio connues, on va pas les nommer, je les vois avec leur téléphone, et ils disent que c'est un freestyle. Mais c'est pas un freestyle, ça, pour moi. Pour moi, un freestyle, c'est une improvisation, tu vois. Et on est d'accord, Stoner. Bon, voilà, merci. Stoner m'a validé, les gars.
Complètement.
Bon, je peux mourir en paix.
Complètement.
Il y a Stoner qui hoche de la tête tellement qu'on l'entend presque.
Il a envie de parler. Il va bien parler.
Ouais. Mais oui, effectivement, cette culture du freestyle, elle a son importance. Et du coup, ça fait un peu presque des catégories différentes d'artistes, en fait. L'impression.
Parce que quand tu vois un mec, excuse-moi, je te coupe, mais un mec comme Supernatural, allez sur internet, regardez Supernatural, c'est un rappeur américain qui improvise réellement, mais c'est hallucinant.
Et c'est du travail. Hein.
Et c'est du travail. Mais le mec, il a une vivacité d'esprit. Tu te dis, laisse tomber. Un freestyler aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il arrive à faire ça. Donc voilà.
Après, est-ce qu'il y a pas de la place pour les deux types d'artistes? Est-ce qu'il faut avoir toute la palette pour être considéré comme un
MC,
un artiste entier?
Alors, je parle, mais c'est pas mon domaine, mais je kiffe le hip-hop. Pour moi, un MC, c'est quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui a du flow, c'est quelqu'un qui a du rythme, c'est quelqu'un qui a du style, c'est quelqu'un qui sait improviser. Si tu sais pas improviser, pour moi, t'es pas un vrai MC. T'es juste un produit.
Mais c'est vrai que le mot freestyle, il a été, réapproprié. Je sais pas comment on dit, parce qu'il a complètement changé. En France, le freestyle, c'est pas de l'improvisation, quoi. C'est exactement ce que tu dis, on les voit avec leur téléphone. En fait, ils posent un texte. Mm. Voilà. Mais pas, il n'y a pas d'impro, il n'y a plus, à part dans Rap Contenders, quoi.
Ah non, attention, nous, il y a aussi, c'est travaillé.
Très travaillé, Rap Contenders.
C'est travaillé. Il y a des espaces de freestyle, des moments suspendus, comme on dit, parce que...
Les mots dépassent leur...
Ça arrive, ils sont... Parce qu'en fait, comme c'est une préparation aussi, et que du coup, des fois, tu veux anticiper des fois ce qu'il va dire ton adversaire, parce que... Peut-être édition d'avant, t'as fait une boulette ou tu t'es fait afficher ou t'as fait un morceau ou t'as dit une phase au final qui n'était pas très, très compréhensible et que du coup, lui, il t'a analysé. Donc du coup, il va te le mettre à la tête devant la place publique.
Ouais.
Donc des fois, il y en a qui anticipent, qui préparent des phases en impro, etc. Mais c'est ça qui fait la magie du truc.
Non, mais en plus, pour le coup, Rap Contenders, c'est pas du tout de l'impro. Ils travaillent beaucoup.
Enfin, oui, il y a beaucoup de travail.
Il y a beaucoup de travail. Quand on voit que les gars, ils ont bossé, ils ont même analysé leur adversaire. Ils connaissent toute leur vie, presque sur le bout des doigts.
Est-ce que toi, vous, avec Rap Contenders, vous avez des gens qui improvisent totalement, que d'impro? Ça existe? Ça a existé ou pas?
RES, il a une grosse part d'improvisation. mais ça reste quand même du travail parce que sinon tu peux vite, ouais. Tu sais, tu connais le comment on dit souvent, le trou noir, tu peux vite t'embourber si t'as pas quand même quelque chose de préparé. Wojtek, il avait aussi des phases des fois d'improvisation, mais Wojtek est celui le MC le plus titré du Rap Contenders, mais il a des phases des fois où s'il est pas prêt, ça va pas le faire. C'est plus, il y en a qui sont, il y a des MC, je vais pas dire leur nom, mais qui ont besoin de en amont de travailler avant de travailler avant. Il y a des MC la veille, tu les appelles et ils disent non mais j'ai pas fini. Comment ça t'as pas fini? Non j'ai pas fini, mais vas-y frérot, on se rappelle parce que t'as vu là, il faut que je mémorise mon texte pour demain.
Ah ouais.
Tu dis, mais attends,
ok.
T'as trois rondes là, t'as pas fini. Ouais. Il arrive le lendemain, t'as même pas l'impression qu'il a écrit la veille en fait. Donc après, ça dépend de chacun comment il appréhende le truc, mais c'est beaucoup de préparation avant.
Moi, chacun a son opinion. Moi, je suis plus partagée sur le côté. J'ai l'impression qu'il y a quand même certains MC qui sont très, comment dire, très freestyle, et puis il y a d'autres où ils ont besoin que ce soit très écrit. Et
c'est parce qu'ils ont travaillé. En amont, qui fait que des fois, t'as l'impression que c'est du freestyle, en fait.
Oui,
que...
alors après, c'est un peu comme les musiciens de jazz qui, voilà, ils ont maîtrisent petites, tellement.
Comme
ils
les
ont
gens stand-up, ils ont déjà des petites les choses, des petites rames qui sont préparées au cas où. Et les danseurs
qui ont leur routine. Et puis après, ils arrivent à agencer ça d'une certaine manière qui donne l'impression que c'est totalement improvisé. Mais...
Et des fois, par exemple, il y en a, leur premier round, ça va être le dernier. Et en fonction de comment ça se passe, situation.
Ah oui, ils vont modifier l'ordre des passages. Ouais. Bah, un peu comme certains modifient l'ordre de leur passage dans des battles de danse parce qu'ils veulent répondre à quelque chose qui a été fait par leurs adversaires,
etc. Je trouve toujours ça très dommage. Maintenant, je comprends les enjeux et tout, mais le problème, c'est qu'on place les enjeux avant. Par exemple, je te donne un exemple. Juste debout, Stockholm, il y avait deux MC, ADL et Aaron, qui ils disaient, vas-y, sors-moi ce que t'as dans la poche. Un stylo, un chewing-gum. Et les mecs, ils improvisaient sur ce que les gens sortaient de leur poche. Mais quand t'entendais, ils retournaient les salles. Tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage qu'on perde ça.
Ouais. Ah non, mais c'est hyper fort. Hein. Je dis pas...
Ça serait mortel de faire ça, de refaire ça. Et en danse, c'est qu'en danse, c'est pareil. Il y a tellement d'enjeux maintenant. Les mecs, ils ont des contrats avec des compagnies, Opéra de Paris, tout ça, qui font gaffe à leur passage et tout. Et je trouve ça dommage. Mais bon, c'est
ça
moi.
Ça perd du naturel.
Alors, on parlera justement de ces enjeux, de la place du public et comment ça peut jouer dans l'institutionnalisation. J'ai réussi à le dire.
Bravo. Wow.
Je m'autocongratule.
Bravo.
Mais tu citais un peu les différents critères d'un MC. Il y en a un qui est quand même assez important, qui est pour moi le fond et le militantisme, j'ai presque envie de dire. Et ça tombe bien parce que on a Maristan qui va nous parler d'un sujet politique, car à notre sens, dans Hip Hop 360, le rap est politique.
L'espoir est politique, parlons de nos victoires.
Hip Hop,
activisme, engagement,
artivisme, politique. Pour cette chronique, on va forcément parler d'un sujet qui est d'actualité, donc de la Palestine. Et l'hip-hop est un art qui a toujours donné la parole aux opprimés. Donc comment parler hip-hop sans parler de Palestine ? De Gaza à Marseille, le rap sert de mégaphone pour la cause palestinienne. Il s'agit d'une tradition de résistance culturelle face à l'injustice. Je vous ai sélectionné trois titres qui sont pour moi des SOS pour Gaza, pour la Palestine et pour les Palestiniens. On va commencer par le premier, Gaza, de Kenny Arcana.
Calomniés même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendons soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendons soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut...
Dans ce titre, elle dénonce le silence médiatique dans un cri du cœur qu'elle adresse à Gaza comme on s'adresse à une personne. Après le 7 octobre, elle est l'une des premières artistes à rapper pour la Palestine. Elle sort son son le 29 octobre en nommant génocide ce que les médias alors appellent la violence. Plus qu'un rap engagé, c'est un rap de l'indignation face à l'horreur. Mais on ne peut pas parler non plus du hip-hop engagé pour la Palestine sans parler des Palestiniens eux-mêmes qui sont le premier écho le plus important. Donc pour vous parler d'eux, je vous ai choisi deux artistes qui ont fait un featuring. Il s'agit de MC Abdul, qui est un jeune âgé de 15 ans, qui s'est fait connaître en posant un son qui s'appelle La Palestine sur, un, sur une instru d'Eminem. C'était, je crois, en 2021, il me semble. Et là, récemment, donc l'an dernier, ils ont sorti, il a sorti un son avec un autre palestinien qui s'appelle Saint-Levant, qui est connu pour un de ses titres, From Gaza With Love. Et le son qu'ils ont sorti s'appelle Deira. C'est un hommage en fait à l'hôtel du père de Saint-Levant qui a été détruit à Gaza par l'armée israélienne. Donc c'est une sonorité orientale ponctuée d'anglais. Big dreams, heavy nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, we should let Israel Palestine.
فات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذي عوام والخطر مجروح
Ce titre est une déclaration d'amour, mais aussi une déclaration de peur pour son pays. Une affirmation de la résilience malgré les nuits difficiles. Ils maintiennent l'espoir par le rap. Dans ce texte, à un moment, MC Abdul dit qu'il espère pouvoir voir son 16e anniversaire qui doit être cette année. 30 ans auparavant, quand on parle d'engagement palestinien, pour moi, j'ai une chanson qui est venue tout de suite. C'est Ayam, qui en 1993, à une époque où on politise le rap français, sort un son qui s'appelle « J'aurais pu croire ». Et là, ils placent la Palestine au centre d'un débat. Ils déconstruisent complètement la propagande de l'époque et dénoncent l'injustice historique.
J'aurais pu croire en Israël, mais les différentes religions n'y vivent pas en paix. Les deux tiers du territoire que les sionistes ont occupé par l'ONU en 48 n'ont jamais été attribués.
Pense à tous ces Russes et ces Polonais, fraîchement arrivés, et qui ont chassé les Palestiniens qui habitaient sur cette terre, et qui l'ont travaillé et chéri pendant des millénaires.
On les a conduits dans des camps et dépouillés là, ils furent massacrés à Sabra et Shatila. Dieu a signifié aux hommes de toutes les races, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
Après les tueries par ces chiens de nazis, je ne peux pas croire que vous ayez agi ainsi. J'ai rêvé une nuit de deux beaux frères jumeaux, Palestine et Israël en harmonie, souverain et égaux.
Mes balles contre cailloux, canon à pierre, expulsé aux frontières, je ne puis me taire. Le David d'antan est devenu Goliath, moi. J'aurais pu croire Israël, mais je ne le crois pas.
Ayam ne parle pas seulement d'un conflit, mais d'une expulsion et d'une occupation. Je vais revenir sur une phrase qui, plus de 30 ans plus tard, sonne comme un échec stagnant. J'aurais pu croire en Israël, mais les différentes religions n'y vivent pas en paix. Les deux tiers du territoire que les sionistes ont occupé par l'ONU en 1948 n'ont jamais été attribués. La mention des deux tiers du territoire non attribué est une référence directe au plan de partage de la Palestine de 1947. C'est une résolution 181, il me semble, de l'ONU, et la création de l'État d'Israël en 1948. Donc Akhenaton pointe ici l'accaparement de terres au-delà des limites fixées par l'ONU et l'absence de création d'un État palestinien viable, ce qui est le cœur du conflit toujours actuellement. Et comment ne pas continuer en parlant, en passant du microphone au mouvement avec Hip-Hop Nation for Palestine. Il me semble t'avoir vu d'ailleurs, Bruce, dans une des vidéos.
Non. Vous faites erreur.
Donc, l'engagement du hip-hop dépasse les micros. Le mouvement est une culture globale qui inclut la danse. Face à la même urgence, la communauté du hip-hop, de la danse, des danseurs, de popping, de b-boy et de locking s'est mobilisée sous l'étendard Hip-Hop Nation for Palestine, que je vous invite vraiment à suivre sur Instagram. Lancé donc par Mehdi Sinomade, si je ne me trompe pas.
Mehdi Slimani de la compagnie Nomade, ouais.
Ok, et donc c'est un mouvement mondial. C'est plus d'une centaine d'artistes provenant d'une trentaine de pays sur le compte Instagram. On peut découvrir aussi Joseph Kader, qui lui est un danseur palestinien, qui, ça me touche à chaque fois que j'en parle, j'ai beau voir ses vidéos, mais voilà, il danse au milieu des décombres. Il y a encore une vidéo qui est sortie récemment où il a un petit chapeau, où, comme quand on fait du hip-hop dans la rue, on sort son chapeau et de son chapeau sort un beau drapeau palestinien. Donc tout comme Ayam, Kenny Arcana et MC Abdoul utilisent leur voix pour résister, les danseurs, eux, utilisent leur corps. Ils ont transformé leur art en une nouvelle forme d'intifada culturelle, créant des vidéos de danse percutantes partout dans le monde. Votre slogan est fort, c'est l'art plutôt que la mort. Et pour conclure, le hip-hop, qu'il soit rappé ou dansé, est la preuve que la culture est une arme puissante. Face aux murs, aux blocus et au silence, ces artistes continuent de chanter et de danser parce que n'oublions pas que le hip-hop est la voix des sans-voix.
Bravo.
Le hip-hop est la voix des sans-voix. Bravo. Quelle belle conclusion.
Bravo.
Merci Maristan pour cette chronique. On a une pensée pour toutes les victimes de ce génocide.
Bien
et on insiste sur ça. Et c'est Hip-Hop Nation for Palestine. Et l'Instagram, c'est Universal Dance Floor. Grosse dédicace à Mehdi Slimani qui a tout mis entre parenthèses pendant 2 ans. Et il s'est grillé dans tous les trucs. Parce que là, maintenant, c'est facile d'en parler. Je prends une petite minute, excuse-moi.
Mais prends-la, même prends deux.
C'est facile d'en parler, mais je te rappelle qu'à l'époque, il y a 2 ans, quand tu parlais de ce sujet, c'était très compliqué. Moi y compris, hein, j'ai été boycotté sur des trucs, etc., etc. J'ai perdu des sponsors, tout ça. Donc, big dédicace à tous ces danseurs, tous ces rappeurs qui se manifestent. Et aussi, n'oublions pas le Congo, le Soudan,
Bien sûr.
Le Yémen et toutes les autres nations qui meurent sous les bombes qui sont beaucoup moins médiatisées aussi.
C'est vrai. Et quand tu m'as fait part des morceaux que tu voulais choisir pour ta chronique, Maristan, et notamment celui de Ayam, j'aurais pu croire, du coup je l'ai réécouté et je me suis souvenu que la première fois dont j'avais eu connaissance du massacre de Sabra et Shatila, c'était par ce morceau.
Ouais.
J'avais jamais entendu parler de ça et du coup j'avais fait mes petites recherches. Et ça m'est arrivé souvent dans ma vie que les rappeurs m'éduquent. Sujets comme ça, Assassin le faisait, d'autres groupes ont joué ce rôle-là. Voilà. Le savoir est une arme et je sors toujours armée.
Très souvent, je dis que ma culture, elle vient du hip-hop, quoi, du rap, réellement. Parce que le rap, avant, nous cultivait beaucoup, il s'accaparait des sujets de société qu'aujourd'hui... on a un peu plus de mal, mais je pense que aussi...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que même les jeunes générations, à travers le rap, là, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un groupe de rap là, qui fait beaucoup parler de lui. Je le retrouverai pour s'il y en a qui sont intéressés, mais qui traite de sujets très difficiles à traiter en termes de...
J'ai une question, vas-y, je te coupe. Est-ce qu'ils sont diffusés sur les radios mainstream? Parce que nous, à l'époque, les groupes comme IAM, NTM, tout ça, La Clica, Kerry James, tout ça, c'était diffusé sur les grosses radios. La différence maintenant, c'est que c'est plus tellement... Moi, j'ai l'impression que le rap consommable, il est très diffusé, mais le rap conscient, il est oublié.
Les morceaux très engagés de... Kerry, il a été diffusé sur les grosses radios. Ayam est diffusé, mais qu'est-ce qu'il diffusait? Il diffusait Je danse le Mia, il diffusait ces morceaux-là. Mais un morceau comme J'aurais pu croire, c'était pas diffusé. Je m'en souviens bien.
Le Mia ramené à ces morceaux.
Voilà,
un peu
ça
plus
permet profond. Effectivement c'est vrai, c'est vrai. Après, à l'heure actuelle, mais là on est en train de partir sur un tout autre débat qu'on traitera ici. C'est important de lui laisser toute sa place parce qu'il est hyper intéressant. Mais à l'heure actuelle, la multiplication des moyens de diffusion fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir, Skyrock pour te diffuser. À l'époque où le rap a vraiment explosé, si tu ne passais pas sur Skyrock, tu n'existais pas. À l'heure actuelle, ce n'est plus vraiment le cas.
Par contre, et juste un truc par rapport aux artistes et aux danseurs. Je pense qu'un danseur doit être positionné. Et je pense qu'un artiste doit être positionné. Voilà. Et les plus grands artistes ont été positionnés, que ce soit James Brown, Bob Marley, Nina Simone. Bon, ça paraît peut-être pas plus jeune, ça. Mais bon,
valide.
Voilà, ils étaient positionnés.
Ils étaient positionnés.
Voilà.
Ok. Clairement. Et puis, donc, bah, tu le disais un peu pour la blague, mais effectivement, tu as participé à cette initiative Hip Hop Nation for Palestine. Et bravo, bravo à toi et bravo à tous les danseurs.
C'est le minimum qu'on puisse faire. On est dans le luxe, on mange, on dort, on boit, on a un toit. C'est le minimum. Voilà, sans faire de fausse modestie, je suis pas modeste, mais c'est minimum.
Et ça fait peut-être une transition trouvée parce que justement, tu disais que les artistes doivent se positionner, mais en même temps, il y a cette problématique de quand on organise des grands événements, le risque de justement de perdre des sponsors, de qu'il y ait une partie du public qui se reconnaisse pas dans ce positionnement. Comment est-ce qu'on fait quand on organise un très gros événement qu'on a pour ambition de remplir? C'est l'Accor Arena. Mmh. Combien de personnes?
C'est 16 000 personnes.
16 000 personnes. Mmh. Comment on fait par rapport à ça?
Alors, deux choses. La première chose, c'est on continue. Et deuxième chose, c'est on emmerde ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, je pense que c'est assez... Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est très important de rester intègre par rapport à sa vision. Parce que moi, j'ai perdu des sponsors, j'ai perdu des potes. Mon comptable est de confession juive, un de mes proprios...
Alors, on peut être juif,
oui, mais quand je dis ça, c'est que j'ai eu des discours avec eux, que c'était très chaud.
Donc, c'est pas qui c'est pas sioniste, un peu plus sioniste. Surtout le fait qu'il soit sioniste.
Voilà, précise bien.
Voilà, tu vois. Et du coup, j'ai tenu tête, parce que tu peux pas laisser faire ça. Et te dire oui parce que je veux faire l'Accor Arena, je te donne un exemple tout con. L'année dernière l'Accor Arena c'était pendant le Ramadan. J'ai dit à un moment on va mettre une grande table avec des dates. Sauf que c'est tellement devenu privatisé l'Accor Arena qu'ils m'ont dit oui mais ça doit passer par notre prestataire. Comment s'appelle votre prestataire? Lévi. Bon, voilà, sans faire de faux jeux de mots j'ai dit bon laisse tomber parce que c'était trop contraignant. Ils nous sortaient des trucs d'hygiène et tout. Voilà, c'est des trucs, des petits trucs. Mais il faut pas oublier non plus que même si on n'a pas fait ça, on a fait venir les danseurs de Hip Hop for Palestine sur scène et Free Congo. Donc des danseurs qui ont fait une représentation à la Corarena sur scène. Et il y en a qui n'étaient pas contents, mais voilà, c'est tout, c'est la vie. Et il faut continuer. Faut pas céder à la panique, à la peur. Et faut perdre des sponsors. Et c'est pas grave. Voilà. Et je dis pas que c'est facile. Hein. Tu vois, les cheveux blancs, le stress, les rides.
Voilà, c'est ça. C'était la question d'après. C'est que là, ça a l'air facile quand tu le dis.
Non, c'est dur, c'est dur.
Quand
à ce tenir, je dois encore 1500 balles d'une prestation qu'il m'a faite. Il me regarde avec des yeux vénères. non, il est très gentil.
Je pense que là, après t'avoir entendu, il va te pardonner les 1500 balles.
non, il a toujours été cool. Il m'a toujours supporté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dur. C'est très dur parce que, parce que quand tu te positionnes, forcément, tu ne plais pas à tout le monde. Et je vais même te dire plus, tu ségrègues, quoi. Voilà, moi j'ai vu des gens se lever pendant le show qu'on a fait, des gens qui se levaient, tu vois. Donc pas beaucoup, mais il y a plein de gens qui ont pleuré, qui ont applaudi aussi. Mais c'est aussi ça le hip-hop. Voilà. Donc faut l'accepter. C'est dur. Et là, après cette radio, merci. Après cette émission, je vais encore perdre d'autres
les
sponsors.
Les deux, trois sponsors qui restaient.
Il n'y en avait pas déjà, donc c'est pas grave.
Stunner, tu voulais...
Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Donc
on entend enfin la voix de Stunner qui bouillonnait tout à l'heure. Voilà.
Non,
vous avez des autres.
Je suis un réac, en fait. Donc, voilà.
Donc Stunner pour le rap contender.
Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Donc, en étant artiste, il faut se positionner. Pourquoi? Parce que, mis à part vendre en fait une image ou proposer une image, on propose aussi également une façon de voir les choses. Une perspective. Et cette perspective-là, c'est une perspective, on va dire, d'ordre moral, d'ordre social, d'ordre aussi également politique. On vend sa personne. On ne peut pas être juste une façade et être complètement vide, une coquille vide. Ça ne va pas durer. Et c'est pour ça qu'après, quand on est de cet acabit-là, on devient ce qu'on appelle un project plant. Nous, contrairement à Bruce, non, on n'a pas tous les gros sponsors que tu as, grand frère, donc désolé. Donc,
oui, c'est vrai. Alors, tu le dis comme une boutade, mais c'est vrai que le fait que vous soyez sur une plus petite salle à remplir, Est-ce que ça vous donne aussi une forme de luxe de pouvoir être plus radicaux quelque part avec, enfin c'est positif moi dans ma tête, dans ma bouche.
C'est pas une question de salle, parce que même en fait avec Batsam, c'est que mon frérot Batsam n'a pas précisé, c'est que le choix d'être aussi sur une salle comme le cabaret, c'est parce que aussi c'est des contraintes techniques. Okay. Voilà, parce qu'on se dit aussi également un battle, il faut vivre un battle, on a l'idée, on veut conserver un peu ce côté un peu boiler room. Mais si on se retrouve dans un zénith où on est complètement à distance, on ne voit pas en fait justement le battle MC, on perd en fait justement ce côté un peu boiler room. Voilà, cette proximité. On pourrait, hein, on pourrait.
C'est vraiment une volonté de votre part d'être resté dans une petite salle.
On va dire une moyenne salle.
Oui, pardon, je dis petite salle. Oui, alors, le cabaret sauvage, c'est une très belle salle, voilà. Pardon. Mais
D'une envergure, dire un médium. Oui, on pourrait. Parce qu'on a déjà eu. On a failli faire le Bataclan. Ouais. Sauf que la période où on a fait le Bataclan, qu'on a signé, trois jours plus tard, il y a eu ce qui s'est passé.
Ah.
Bon, voilà.
Okay.
Et nous, en fait, justement, contrairement en fait, avec Bruce, nous, on a en fait, justement, on est sur l'expression orale. Donc, il y a la liberté d'expression. Donc, forcément, c'est un sujet qui va arriver. Nous, on a eu en fait une surprise, justement, à cette période-là où il y avait le problème du Bataclan, avec un battle MC qui est. Il nous a mis mal. Donc, il est venu, en fait, justement, habillé comme un orthodoxe yiddish avec le kéfier. Donc, à un moment, avec une barbe rousse, il était un bon rouquin avec une bonne barbe. Comme un ZZ Top, non. Ah, je peux t'assurer qu'à un moment, on a commencé un peu à. J'ai jamais eu peur, mais à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est un message de paix qu'il avait amené. Parce qu'en fait, justement, il y a cette possibilité de créatrice, en fait, justement, d'avoir la liberté d'expression. De toute façon, vu ce qu'on est en train de balancer, il y a eu des battles. Franchement, j'ai compris qu'on ne pouvait pas aller sur la télé. Donc, voilà.
C'est d'accord. Bon.
Donc
voilà.
Donc voilà. Donc j'ai compris. Et à un moment, moi j'ai aussi tendance à dire ça, mais lui ça le fait rire. Les rap contenders, en fait, c'est le truc que tu aimes à distance. Donc oui, parce qu'il y a certaines
personnes. Alors explique-nous ce que tu veux
pourquoi
dire.
Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas assumer d'être là, vu ce qui est un peu dit parfois. On a eu parfois des artistes très connus qui sont venus par rapport à ce qu'ils ont entendu, où là, ils ont fait trois pas en arrière.
Ils veulent pas être assimilés à ça, c'est ce que tu veux dire, à cette image.
Ah oui, donc voilà, il y a certains battles où tu as complètement le summum de la xénophobie, de l'homophobie, de l'antisémitisme, même de la négrophobie, enfin bref, tout ce qui se termine par phobie, en fait, voilà, tu l'as. En fait.
Tout y passe.
Tout y passe, voilà. Là, c'est pour ça que forcément, nous, dans notre cas, l'artiste va aussi également se positionner. Parce qu'il va aussi surfer sur l'actualité. Il va surfer aussi également sur... il y a aussi ce côté sensationnel aussi. Je vais un peu toucher, je vais un peu tâtonner et voir en fait quelle est la réaction. Oui, en fait.
Titiller les gens.
Voilà,
alors, c'est une des questions que j'avais justement par rapport à tous les propos qu'on pourrait qualifier de problématiques qui sont dits dans les rap contenders. En regardant certains, je me disais, mais comment est-ce qu'ils font pour laisser dire ça et ça et ça? Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, c'est le mec d'en face qui répond. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, ou vous avez une autre approche qui serait de dire, on laisse la liberté d'expression totale?
Alors, Batsam, il a dit bien quelque chose. C'est tout à l'heure, c'est un défouloir, c'est un exultoire. Donc, on est en fait dans une arène. On est dans une époque où l'être humain est méchant. Donc, gratuitement. Si on est méchant en s'amusant, mais après, derrière, on fait la paix, voilà. Donc, comment dire, c'est le morceau de Nas, là, il me trotte en tête, c'est « Destroy and rebuild ». Donc, c'est ça, en fait. Donc, on se détruit pour mieux s'apprécier, en fait, justement. Donc, voilà.
Donc, pour mieux reconstruire ensemble.
Exactement. Donc, c'est ça. Et vu ce qui est dit, donc, on va dire... Les gens osent, c'est le moment où les gens vont oser dire tout haut ce qu'ils pensent, en fait, tout bas. Donc, et ils vont pas.
Puis t'as un petit côté Dieudonné. Déjà, t'es camère, T'as un petit côté dieudonné.
Ah, frère, laisse-moi, je peux t'assurer. C'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas aller à la télé. Donc,
bah ouais,
voilà, donc,
c'est foutu.
Donc, en plus de ça, nous, on explose en même temps à la période dieudonné. Donc, il est clair, clair chauve avec une barbe. Moi aussi, je suis. Bon. Donc, l'assimilation, en plus, il a des origines camerounaises, moi aussi.
C'est ça.
Donc, déjà, okay. ça vous place.
Bah, Bruce aussi, il a des origines camerounaises. Je comprends sa radicalité, en fait. Voilà.
Et tête dure.
Tête dure. Voilà.
Ah, on a invité le gang des Camerounais sans s'en rendre compte. Bon, mais finalement, sur ces événements que vous organisez, on a pas mal parlé de transmission, c'est un peu le dernier point sur lequel je voudrais vous interroger. Surtout quand on a un événement où potentiellement, il y a peut-être des gamins qui l'ont regardé quand ils étaient enfants et qui ensuite y ont participé.
Sure.
Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre en faisant ça ? Parce que maintenant, je sais que vous avez envie de transmettre quelque chose des deux côtés. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui est important de transmettre dans ce genre d'événement ? Stoner.
Bah, je vais vous donner trois anecdotes en fait là qui m'a vraiment. Je me suis dit ouais, comme on dit en anglais, Mama did it. Donc c'était un jeune qui j'étais invité en fait à un concours d'éloquence dans une école de droit et un concours de plaidoirie. Il y avait un concours d'éloquence, mais c'est plus un concours de plaidoirie dans une école de droit. La façon de l'étudiant s'exprimait, comment il présentait les choses. Et je voyais en fait à un moment, tout le monde ayant une standing ovation. Et moi, il vient me voir, il me dit, c'est grâce à Rap Contenders que je fais ça.
Wow.
J'arrive à m'exprimer comme ça.
Trop beau. Stylé.
Voilà. Ça, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote, je vois une maman avec sa fille qui, en sortant du métro, qui me voit ça. C'était en 2014, ouais, 2014, ouais, et elle m'interpelle en disant, bon, je dois vous dire merci. Je dis pourquoi. Elle me dit, ah bah, grâce à vous, j'ai réussi à donner goût au français à mes étudiants, à mes élèves.
Waouh.
Donc, c'est là où je me dis, bon, okay, la transmission, elle n'est pas uniquement que sur l'aspect culturel pur, brut, mais ça dépasse, en fait, justement. Donc, il y a aussi également... et le troisième compliment, c'est... Je pense que c'est... Bon, on y était. C'était... On a un battle MC qui a mobilité réduite. Donc, voilà. Et il était venu avec ses parents. Et lorsqu'il a son battle après, donc les gens avaient complètement oublié ce côté, on va dire, qui est ostentatoire, donc sa mobilité réduite. Donc il était considéré comme un MC, tout comme tant d'autres. Et sa mère qui vient nous voir en nous disant, je vous remercie parce que c'est une des rares fois où je vois qu'on considère mon fils pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Donc c'est là où je me suis dit, OK, la transmission, elle va plus loin que ça. Ce n'est pas uniquement que sur la discipline. Sur la discipline, on voit d'autres choses. On voit aussi d'autres personnes qui ont ce souhait d'innover. Mais là, on voyait que ça va encore plus loin. C'est que lorsque ce que vous faites culturellement s'intègre aussi également dans votre vie de tous les jours.
Oui, ça rejaillit dans tous les aspects de la
vie.
Dans tous
les aspects.
C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, le fait que j'ai pris connaissance du massacre de Sabra et Shatila dans une chanson. Voilà, effectivement, le rap, ça a un impact sur notre vie dans tous ses aspects.
Exactement.
Et
le dernier, c'était, le dernier élément qui me permet de voir aussi également qu'il y a aussi cette transmission-là, c'est un commentaire de Dinos. Donc il disait en fait justement il disait lorsque t'es monté sur la scène des Rap Contenders, t'as en face de toi 1500 personnes et que tu les fais sauter, sache une chose, tu peux retourner à Zénith ou un Accor Arena et que c'est la meilleure école. Donc ça, venant de Dinos, maintenant vu la carrière qu'il a maintenant, donc voilà, c'est gratifiant.
Bravo.
Incroyable.
Merci, merci pour ce partage. Et ouais. Alors, puisque Batsam et toi, vous avez été quand même un peu, comment dire, un peu humble par rapport à toutes les personnes qui sont passées dans le rap contender. Mais bon, j'ai bien sûr Nekfeu en tête, mais il y en a plein d'autres qui sont connus. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns
oui, bien sûr.
Qui sont maintenant très connus?
Bah, Nekfeu avec tout le collectif, donc l'entourage à 995, donc Alpha One, Dean Barbico, Big Flo et Oli, Leilo, Luigi, Dinos,
bon, ouais. Dinos que tu viens
Dinos,
de citer,
ouais, que je viens de citer, Gizmo. Franchement, il y a toute une génération. Hein, en fait, voilà. Je crois que toute la, un peu la, la génération 2010 du rap français est passée soit directement ou indirectement en fait justement par les rap contenders. Donc je pourrais dire ça. Ouais.
Bon bah. Il n'y a pas meilleur exemple pour répondre à la question de la transmission.
Voilà.
Alors, vous avez fait mieux.
Du coup, je ne sais plus quoi dire. Il m'a tué, mais c'est pour ça, tu vois. Moi, attends, je vais te faire une démo de danse. Voilà. Personne ne verra, c'est bien.
Mais t'es trop fort, Stunner.
Non, moi, je tiens à dire, je ne vais pas être long parce que je trouve que ce qu'il a dit, c'était superbe, surtout par rapport à la personne en situation de handicap. Je pense que ça résume bien ce qu'est le hip-hop. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont passés sur les planches du Juste Debout, qui ont dansé pour Madonna après, qui ont dansé pour Beyoncé après, qui ont dansé pour Chopard, qui ont dansé pour, sans les nommer, désolé, des grandes marques de sport, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi ça, mais ça passe pas que par ça, ça passe aussi par, comme tu l'as dit tout à l'heure, des jeunes qu'on voit tout petits, à Montagnoli, on déploie un camion scène parce qu'on fait Junior Dance Tour, et on les voit 10 ans après, les Salif, les Aaron, qui ont maintenant des 2 millions, 3 millions de followers. Et tu dis, et ils me disent, mais tu te rappelles de moi? Ils me remontent ta photo, et ils sont tout petits sur la scène du truc. Et tu dis, waouh! Et là, tu dis, bon, voilà, mais je peux rien dire de plus beau que ce que tu as dit. C'est ce qui nous paye réellement. Parce qu'on fait. Enfin, ça paraît fou, mais même si moi, je suis un businessman aujourd'hui, quand tu fais un accord Arena, tu perds de l'argent. Tu perds énormément d'argent. Et ce qui nous porte, c'est ça. C'est vraiment la transmission et la passion, quoi. Je pense que Stunner, c'est pareil.
Et toute l'équipe du
rap contenders, tu vois. On voit, nous, que le résultat, le produit fini. Mais bon, c'est très, très compliqué. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est la passion qui nous porte. Et puis, on développe d'autres choses à côté qui font que... Mais la transmission, elle est là. Maintenant, voilà, on a des écoles de danse. Il y a des gens qui viennent du monde entier, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, pour apprendre de nos danseurs en France. Donc, c'est super... gratifiant aussi, voilà. Mais je vais pas m'étaler parce que t'as déjà dit des choses superbes. Non, je le pense.
Il y a des légendes en fait, justement.
Ça va se finir comme un anti-clash. Ils vont se lancer des fleurs.
Parce qu'en fait, en gros, si je peux me permettre, hein, j'ai juste simplement une minute. Moi, j'ai assisté au Juste Debout à l'époque, donc je n'avais même pas encore. Juste Debout a été en fait justement une source d'inspiration pour les rap contenders.
C'est beau, ça.
Voilà. Clairement,
c'est
vraiment.
Cool, c'est cool, ça fait plaisir.
Donc voilà, donc une vraie source d'inspiration. Donc c'est pour ça que je reconnais mes pères. Hein. Donc je reconnais aussi également les influences que nous avons eues.
Super. Magnifique. Bah, c'est pas pour rien qu'on a voulu vous inviter à la même émission tous les deux et on vous en remercie.
Merci.
Il y a Huguette qui va nous présenter l'agenda culturel, l'agenda des événements à ne pas manquer et puis on vous donnera un tout dernier petit mot de la fin avant de se quitter. Huguette, c'est à toi après le jingle. C'est l'heure de l'agenda.
Vu qu'on est, très en retard, c'est
non,
ça.
Non, tranquille, bon. Vas-y, non, fais-nous ton agenda.
Je vais être soft cette fois-ci. Alors, il y a un événement qui va se terminer dans quelques jours. Si vous aimez la street dance coréenne, sachez qu'il y a au Théâtre du Châtelet, qui a pour les 25 ans de la Battle Pro à Châtelet. Donc, si vous voulez des informations par rapport à cet événement, vous allez sur... sur un lien qui se trouve sur sortiraparis.com.
C'est sur le site du Théâtre du Châtelet.
Aussi. Donc, c'est pas mal. C'est de la battle. Que des Coréens. C'est pas mal.
Original.
C'est génial. Sinon, il y a aussi Snaps, la marque Snaps, que vous connaissez tous. Donc, la marque allemande qui organise le 23 novembre le Snap Beyond Dub à la salle de concert. Pardon. On m'entend? C'est bon?
Oui.
Qui organise du coup un battle 2 contre 2 Et tenez-vous bien, le prix, c'est 100 000 euros pour le gagnant. Donc il y a ça.
Ils ont de l'argent, Snaps.
Oui, oui. Et donc c'est le 23 novembre. Hein. Donc info sur Insta, Snap Beyond Up. Et puis comme on est sur, on a des invités de renom. Donc il y a le Rap Contenders qui organise le samedi 15 novembre, du coup un événement de rap a cappella au Cabaret Sauvage. Donc venez nombreux.
Ils organisent leur...
Leur 15 ans, pardon.
Happy birthday.
Leur 15 ans.
Bravo.
Bravo, c'est beau.
Et puis il y a également le Juste Debout. Si vous voulez rêver, naviguer sur l'eau, je vous conseille le Juste Debout qui commence, qui fait son escale à Miami, je crois. Hein.
Ouais, la croisière Juste Debout.
La croisière Juste Debout. Donc vous allez être au rythme de la mer, au rythme du hip-hop. Vous allez naviguer sur les flots et danser avec des showcases, des animations,
des workshops,
workshops avec plein d'escales. Donc Miami, Bahamas,
Jamaïque, les Caïmans et Mexique.
C'est pas le rêve, ça ?
Grave.
On négocie.
Moi, j'aimerais bien y aller. Et ça, c'est...
Alors là, je peux vous dire qu'il y a tout le monde qui est en train de se dire, on y va tous là, sur le plateau, tout le monde est en train de se dire...
Moi, si j'allais pas en Colombie pendant les vacances des fêtes, moi, je serais allé. Hein. Ah ouais. C'est du 30 novembre au 7 décembre, c'est ça, exact.
Merci.
Voilà.
Et le Juste Debout, donc les 20 ans du Juste Debout.
Je vais balancer un scoop, c'est que cette année...
On adore les scoops.
Alors, cette année, ça va peut-être pas vous plaire, mais on va pas faire l'Accor Arena cette année. On va faire Coubertin. On va revenir dans la salle mythique.
Ça va vous plaire, tu plaisantes.
Ouais, non, moi, je préfère. Et on va faire deux jours, le 7 et 8, avec des disciplines différentes. Et Stade Pierre de Coubertin, avec 2 x 6 000 personnes, remplies comme un œuf. Avec une ambiance de fou. Voilà.
Trop stylé. Oh,
génial.
Donc, préparez-vous pour la billetterie parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Vu que d'habitude, on fait 16 000.
Ouais.
Bon, des fois 10, des fois 12, mais bon, voilà, il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc préparez-vous.
Et tu nous disais juste avant le début qu'il y avait d'autres,
D'autres
styles du coup, qui
Afro,
sont là pour.
Afro, dancehall, crump et électro.
Ok, super.
Quand tu dis afro, coupé, décalé.
Il y aura tout. Amapiano, coupé, décalé. Bikutsi, de Cameroun. Makossa.
Non, oui. Ah, je suis là, c'est sûr.
En tout cas, mon Paris FM sera là pour les 15 ans du Rap Contender, sera là pour les 20 ans du Juste Debout.
Les 25 ans.
C'est les 25 ans.
Et la 20e édition, pardon, oui. Excuse-moi, je te corrige parce que c'est important.
Non, mais t'as raison. Franchement, 5 ans, quand on n'a que 20 ans, 5 ans, ça compte encore.
Et quand on
a bientôt
50,
ça compte presque plus.
Quand on a bientôt 50 aussi, tu dis 5 ans.
tu dis les demi encore ou pas? Bon, ça va. Donc, t'as pas tant que ça 15 ans dans ta tête. Hein. Au début, il disait ça, mais non, finalement, quand même.
Dans la tête, on lui dit les demi, non? Ouais,
on lui dit les demi dans la tête.
En tout cas, merci à vous.
Bon, merci beaucoup à vous trois d'être
des invités exceptionnels, en tout cas.
Des super invités. J'espère que nos auditeurs et auditrices en savent un peu plus sur le battle.
Exact.
Grâce à cette émission. Merci Maristan, merci Fiona, merci Huguette et merci Jason
merci
à la
Sophia.
Technique. À très bientôt mois prochain.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Hip-hop 360, l'émission qui fait le tour de la question.